Donc, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Sébastien Chenu pour le Rassemblement national.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Désindustrialisation. Parce que nous sommes le parti de la France qui travaille, de la France qui aimerait travailler, de la France qui a travaillé. J'étais ce matin aux côtés des ouvriers de Valdunes, dans le Nord. J'étais avec eux, je tiens à les remercier. Ces ouvriers qui voient défiler d'ailleurs tous ceux qui, pendant des années, ont ruiné l'industrie de notre pays et qui viennent parfois même leur donner des cours d'écologie. J'étais avec eux parce que Valdunes pourrait fermer. C'est le dernier fabricant français de roues de train dont l'unique actionnaire chinois a déclaré qu'il ne mettrait plus un centime dans la société. Valdunes, c'est 336 emplois dans le Nord, à Try-Saint-Léger. Et alors que le savoir-faire, la productivité, les compétences, la qualité du travail est reconnue de tous, et bien aujourd'hui, cette entreprise est menacée. L'investisseur chinois a obtenu ce qu'il voulait, les brevets, le savoir-faire, la technologie. Aujourd'hui, il est prêt à plier bagages, laissant les ouvriers, les employés dans le désarroi. Ce pillage des compétences françaises, cette incapacité à contraindre une entreprise française comme la SNCF à passer des commandes publiques pour les roues de train à une entreprise française, en dit long sur l'abandon de nos fleurons industriels, en dit long sur votre soumission. En 2021, j'avais déjà alerté par écrit le ministre de l'Économie, des Finances et de la Désindustrialisation. Je n'ai jamais eu de réponse. Le mépris, la désinvolture. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quel sort réservez-vous à Valdunes, à ses salariés? Qu'attendez-vous pour appliquer la préférence nationale de la commande publique, comme Marine Le Pen le suggérait, pour protéger notre industrie, pour agir concrètement via la BPI, puisque vous avez des leviers en main? En 2022, vous avez autorisé plus de 130 rachats d'entreprises sensibles par des étrangers. Quand allez-vous vous occuper enfin de l'industrie française?
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie.
Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Chenu, comme toujours, vous simplifiez, vous instrumentalisez, vous caricaturez. La réindustrialisation de la France, elle a commencé il y a 6 ans. Ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à cette majorité. Et vous savez quoi? Elle va se poursuivre. En ce qui concerne l'entreprise Valdunes, vous le savez, elle a été reprise par un actionnaire chinois il y a maintenant une dizaine d'années, en 2014. Cet actionnaire chinois, contrairement à ce que vous dites, a réinvesti dans son entreprise plus de 100 millions d'euros. Et malgré ces réinvestissements et des pertes afférentes, l'entreprise n'a pas réussi à gagner des parts de marché à l'international. Vous le savez sans doute, puisque vous suivez cette entreprise de près, Valdunes, c'est aujourd'hui une capacité de production de 100 000 roues par an. La SNCF, si elle achetait toutes ses roues de Valdunes, en achèterait 30 à 40 000 maximum. On a un défi de compétitivité pour ce site. Nous l'avons identifié, puisque nous n'avons pas attendu que vous intéressiez à cette entreprise pour la regarder de près. Nous avons convoqué la direction et l'actionnaire depuis un an. Nous avons mis en place une étude indépendante qui montre qu'aujourd'hui, on a deux défis. Un outil de production extrêmement ancien, la forge date de 1950, et un défi de capacité de production. Depuis vendredi, à l'occasion d'un CESE exceptionnel, nous avons plus d'informations sur, malheureusement, le désengagement annoncé par l'actionnaire. Nous allons, de ce fait, les convoquer à nouveau. Ils seront à Bercy demain. Nous allons recevoir les organisations syndicales de manière à voir comment accompagner cette entreprise vers la voie, sans doute, d'une reprise. En tout cas, nous ferons tout pour.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Chenu.
Oui, Monsieur le Ministre, on n'a pas besoin d'une réponse de chat GPT. On a besoin d'action. Bougez-vous.
Monsieur le Ministre.
Monsieur Chenu, vos beaux mots, vous pouvez vous les garder. Ce gouvernement, depuis 6 ans, il a créé plus d'emplois industriels que vous n'en créerez jamais. Il a réindustrialisé, il a recréé des entreprises, y compris dans le Nord, sur lequel vous vous nourrissez de la désindustrialisation depuis 50 ans. C'est terminé. Nous allons continuer à agir, vous allez continuer à parler.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin pour le groupe
Les
Républicains.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Depuis des mois, une crise sans précédent du logement s'annonçait. Elle est là, Madame la Première Ministre. Tous les acteurs le disent, les marchés des transactions immobilières est gelé, celui des locations est asphyxié, le mal logement s'aggrave en France. Depuis 6 ans, il manque au moins 100 000 logements en France. Cela touche tous les territoires et tous les types de logements, y compris le logement social. On est en manque cruel. Alors bien sûr, les causes sont multiples, mais elles se cumulent. Les taux d'intérêt ont augmenté, les crédits se sont resserrés et les banques sont devenues extrêmement frileuses. Le foncier se fait rare. Ce sont les blocages des projets en zone RNU, les zones rurales qui sont les plus touchées. Mais c'est aussi les PLUI qui n'avancent pas. Et que dire des fameuses ZAN, ce zéro artificialisation nette, qui de plus devient des ZEM, le zéro ou zone emmerdement maximale. Oui, on en est là. C'est aussi la question des DPE, dont la fiabilité est de plus en plus en cause, avec des mesures nouvelles qui leur sont adossées, avec les passoires énergétiques qui retirent du marché des dizaines de milliers de logements par an dans les mois et les années qui viennent. C'est encore des difficultés avec MaPrimeRénov, avec des particuliers, des entreprises qui attendent des paiements souvent aléatoires et réduits. N'en jetez plus, la coupe est pleine et il paraît que l'Europe va en rajouter une couche. La crise du logement, elle est bien là. Alors tout cela entretient un fort ressentiment social. Nos concitoyens n'en peuvent plus. Le président de la République, au début de son premier mandat, avait annoncé un choc sur l'offre de logement. Il est là, le choc, mais pas dans le sens qui était souhaité. Alors, Madame la Première Ministre, que comptez-vous faire pour soutenir le logement, aider nos concitoyens qui en ont tant besoin ?
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gosselin. Le gouvernement agit. Le gouvernement agit depuis 6 ans pour le logement. Vous avez commencé en parlant du mal logement. Lancé dès 2018, le plan logement d'abord a permis à 440 000 personnes de quitter la rue et d'entrer dans un foyer. Le logement, c'est aussi la rénovation thermique, vous l'avez rappelé. C'est 1,5 million de chantiers qui ont pu voir le jour. C'est l'économie d'une ville équivalente à la ville de Lyon. Le gouvernement a agi pour protéger les Français en mettant en place tous les boucliers tarifaires possibles sur le gaz, sur l'électricité, qu'on soit chauffé de manière individuelle ou de manière collective. Ensuite, oui, il y a des difficultés. Oui, monsieur, vous savez très bien que le logement, c'est une responsabilité extrêmement partagée. Il faut mobiliser les maires. Il faut mobiliser les maires pour leur donner envie de construire. Absolument, ils ont les capacités de construire et nous le faisons. C'est le sens du CNR que nous avons lancé et dont les conclusions seront données très prochainement. Sur la crise actuelle, nous travaillons avec l'ensemble du monde du logement, privé ou public, pour préparer une relance à travers une action de la Caisse des dépôts et consignations, une relance à travers un soutien au prêt à taux zéro qui est un moyen pour nos concitoyens les plus fragiles d'avoir accès à la propriété, une relance à travers le contrat de confiance avec les bailleurs sociaux, comme la Première ministre l'a indiqué dans sa feuille de route. Ce document sera signé avant l'automne dans le cadre du congrès de l'USH. Et nous avons travaillé, nous continuerons à travailler sur cette crise du logement. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Gosselin.
Oui, merci, Madame la ministre. Le gouvernement est dans le déni complet. Vous nous dites que vous avez fait beaucoup de choses, mais beaucoup reste à faire. Et pour le moment, on attend des mesures concrètes. Vous savez, si vous voulez éviter d'avoir des casseroles au-delà des cuisines, des casseroles ailleurs, eh bien, il va falloir prendre ce dossier à bras-le-corps, Monsieur
merci.
Le ministre. Il y a de vraies questions sur le logement.
Merci,
et les maires ne peuvent pas
collègue.
Tout faire. Il y a les ZAN qui les empêchent
merci
de
beaucoup.
Construire.
Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le ministre.
Oui, Madame la Présidente, vous savez, quand on veut faire le tartuffe, on peut faire le tartuffe. Le ZAN est un moyen de protéger notre environnement et c'est un alibi qui est aujourd'hui utilisé par trop grand monde pour ne pas réaliser du logement. Les PLU sont à la disposition
merci
des élus locaux et doivent continuer
ministre.
À travailler.
Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, un peu de silence. La parole est uniquement au président Bourlange pour le groupe démocrate.
Madame la Présidente, rassurez-vous, ce sera plus calme. Madame la Première ministre, Madame le ministre, mes chers collègues, nous célébrons aujourd'hui l'appel à la construction d'une Europe unie lancée il y a 73 ans par Robert Schuman. Le groupe Modem se garderait de manquer à ce rendez-vous du souvenir et de l'avenir. L'Europe, c'est aujourd'hui deux choses essentielles. La paix pour vivre ensemble et la synergie pour vivre libre. Les Français aiment l'Europe quand ils regardent le passé, parce qu'elle a su mettre un terme au cauchemar de la guerre éternelle qui a empoisonné leur histoire. Les Français aiment l'Europe quand ils regardent l'avenir, car ils savent que seule l'union fait la force. Mais cet avenir est inédit, j'oserais dire révolutionnaire. Au cours des 20 dernières années, l'Europe a été confrontée dans l'ordre géopolitique, écologique, démographique, technologique, écologique et démocratique à 6 défis majeurs. Elle n'y a répondu que de façon partielle, malgré les appels répétés du président de la République dans la foulée de son discours de la Sorbonne. Les Européens sont globalement incapables de répondre aux 3 questions qui déterminent les réponses. Qui, quoi, comment? Qui sont les Européens? C'est la question de l'identité commune. Quoi? Que voulons-nous faire ensemble et que voulons-nous continuer de faire séparément? Comment? C'est la question d'un modèle institutionnel contesté, mais irremplaçable. On ne bâtira pas l'Europe de demain sur le détricotage de l'Europe d'hier. Nos concitoyens retrouveront foi dans le projet commun à la condition de se voir offrir simultanément une vision claire et des actions fortes. Nous devons tenir ensemble les deux bouts de la chaîne. Nous avons besoin d'un cap et d'un calendrier. Un cap pour choisir, un calendrier pour agir. Que le gouvernement entend-il faire pour offrir l'un et l'autre aux électeurs européens de l'an prochain?
Merci, Monsieur le Président Bourlanges. La parole est à Madame la Première Ministre.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Louis Bourlanges. Vous l'avez dit, nous traversons une période de crise multiple, marquée par le retour de la guerre sur notre continent, par la volonté d'affirmation des superpuissances et la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique, industrielle, alimentaire et stratégique. Face à ces défis, pour peser et bâtir notre souveraineté, plus que jamais, la solution passe par l'Union européenne. Bien sûr, les partisans du repli sur soi et les populistes des deux bords aiment à accabler l'Europe. L'Europe est leur bouc émissaire commode et serait la cause de tous leurs maux. Ils oublient que c'est l'Europe qui a permis une relance majeure de l'économie après le Covid. Que c'est l'Europe qui nous permet d'apporter une réponse ferme et résolue face à l'agression russe en Ukraine. Que c'est l'Europe qui nous permet d'avoir une ambition climatique puissante et coordonnée. Que c'est l'Europe qui permet de défendre notre souveraineté alimentaire et nos agriculteurs. Que c'est l'Europe qui nous permet de soutenir notre économie face aux subventions étrangères, source de concurrence déloyale. L'Union européenne devient une puissance et nous pouvons être fiers du chemin parcouru, car sous l'égide du président de la République, la France prend toute sa part dans ce combat. Mesdames et messieurs les députés, je ne dis pas que l'Europe est parfaite et les défis qui nous attendent sont immenses. Mais pour atteindre l'autonomie stratégique, pour garantir notre souveraineté et notre indépendance, pour atteindre la neutralité carbone, oui, nous avons besoin de l'Europe. En ce 9 mai, comme tous les jours, face aux extrêmes et aux populistes, nous continuerons à la défendre. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Beix pour le groupe La France Insoumise.
Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, chers collègues. Depuis des mois, le peuple se mobilise contre votre réforme des retraites injuste et inutile. Des millions de personnes manifestent lors de chaque journée de mobilisation. 93% des actifs de ce pays expriment leur opposition. Mais votre seule réponse est le mépris et la répression. En interdisant les dispositifs sonores portatifs, sans avoir peur du ridicule, ou les cartons rouges au Stade de France. Mais Madame la Première Ministre, la page n'est pas tournée. Votre projet brise des vies. Il n'aura pas fallu attendre 3 semaines après sa promulgation pour que votre contre-réforme des retraites ait des conséquences dramatiques. Je pense en particulier à ces femmes, à ces hommes qui avaient négocié leur départ à la retraite anticipée avec leurs employeurs, attendant avec impatience ce droit au repos, ces moments aux côtés de leur famille et au sein d'associations. C'est le cas d'Olivier, de la société Dorano. Alors que son départ à la retraite a été célébré, ayant des projets tout tracés, il devra choisir entre prendre un congé sans solde, le privant de revenus, ou revenir travailler durant une année. Choisir entre revenir travailler ou voir son revenu baisser, voilà le progrès que vous réservez à nos concitoyens et concitoyennes. Vous demeurez sourd aux revendications d'un peuple que vous traitez avec une arrogance rarement atteinte. Chers collègues, il est encore temps d'agir et de mettre un carton rouge à ce gouvernement qui cherche à étouffer la contestation. Non, la page n'est pas tournée, Madame la Première Ministre. Le 8 juin prochain, votons la loi d'abrogation pour porter haut et fort la voix du peuple que nous représentons.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion.
Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bex, vous évoquez, monsieur le député, quelques cas que je n'ignore pas, que le gouvernement n'ignore pas. Mais il faut rappeler quelques évidences ou quelques réalités. Aucun retraité parti à la retraite ne sera jamais rappelé. Première chose. Deuxième chose. Aucun individu, aucun assuré pouvant faire valoir son droit au départ à la retraite avant le 1er septembre 2023 ne peut être concerné par un quelconque rappel que ce soit. Les cas que vous évoquez, la société Orano, vous avez cité, ils sont 16. 16 personnes au sein d'une société comme Orano sont des personnes qui ne sont pas à la retraite, qui sont actuellement en congé et qui, avec leur direction, avaient négocié le solde de congé de contrat épargne-temps ou de compte épargne-temps ou de congé anticipé, mais en aucun cas des retraites. Mon cabinet est en lien avec chacune des sociétés concernées et un traitement social et individuel de chacun des dossiers sera fait pour que personne ne soit rappelé. Mais monsieur le député, permettez-moi tout simplement de vous dire que quand vous voulez parler au nom du peuple, quand vous voulez parler au nom des opposants, permettez-moi de vous dire qu'avec LFI, ils ont de bien piètre et mauvais porte-parole. Vous n'avez servi à rien dans ce débat. Vous n'avez pas bougé une ligne du texte. Vous n'avez pas défendu les salariés. Vous avez voulu bloquer le débat et en réalité, vous n'avez rien apporté. Votre seule fonction, monsieur le député, est de mettre le bazar ici, de mettre le bazar dans la rue. Peut-être que vous êtes fiers de ceux qui, parmi vous, appellent à décapiter le président de la République ou lui promettent un destin à la Kennedy. Ça n'est pas notre conception de la République et ça n'est pas notre conception de la démocratie.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur le président Anglade pour le groupe Renaissance.
Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, en ce 9 mai, nous célébrons la journée de l'Europe et le discours fondateur de Robert Schuman. Depuis maintenant 6 ans au sein de la majorité, nous portons une exigence d'action et de refondation du projet européen à travers un agenda de souveraineté proposé aux Français par le président de la République. Et durant ces 6 années, nous avons avancé résolument sur ce chemin. Du plan de relance européen à la stratégie d'acquisition des vaccins, en passant par la lutte contre le dérèglement climatique. Et bien sûr, notre réponse commune face à l'invasion russe en Ukraine, l'Europe a montré ces dernières années sa capacité à résister, à protéger et même à dépasser ses dogmes. Mais nous avons besoin de continuer à transformer l'Europe de la coopération en Europe de la puissance. Nous sommes à ce moment charnière de notre histoire où nous devons, fort de nos réussites, nous projeter dans l'avenir du modèle européen et de son autonomie stratégique. Nous sommes dans un temps où les menaces géopolitiques, l'urgence climatique, les évolutions technologiques majeures donnent à l'Europe une responsabilité particulière. Nous sommes aussi dans un temps où les ennemis de l'Europe restent nombreux, y compris dans cet hémicycle, où certains, alors que Vladimir Poutine en ce jour menace encore l'Europe et nos valeurs, préfèrent dépenser toute leur énergie pour dénigrer le drapeau européen et à travers lui l'unité européenne. Cela, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, joue un jeu dangereux, car l'Europe indépendante et souveraine est le meilleur levier de puissance et de protection. Madame la Première Ministre, le 9 mai 2022, le président de la République concluait la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette conférence, ce sont les états généraux de l'Europe avant la révolution européenne de la puissance que nous appelons de nos voeux et qui est absolument essentielle si nous voulons répondre aux enjeux de notre époque et notamment celui de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Madame la Première ministre, dans ce siècle redevenu incertain, nous voulons continuer à faire de l'Europe un continent, le continent le plus écologique, le plus innovant, le plus protecteur, celui qui défend les valeurs de liberté et de démocratie. Pouvez-vous nous indiquer la feuille de route du gouvernement pour y parvenir? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre-Alexandre Anglade, Monsieur le Président Pierre-Alexandre Anglade. Il y a 73 ans, Robert Schuman posait les fondements de notre construction européenne. Sa déclaration, c'était d'abord une promesse de paix. Le retour de la guerre aux portes de l'Europe, avec l'agression russe en Ukraine, rappelle que la paix n'a rien d'une évidence, qu'elle est précieuse et que l'Union européenne nous la porte au quotidien. C'est mon premier message, notamment pour notre jeunesse. Mon deuxième message, c'est que l'Europe est devenue synonyme d'action et de solution au service des peuples, au service des Français. C'est tout le sens de l'engagement du président de la République depuis 2017. On disait l'Europe fragile face aux crises. C'est grâce à l'Europe que nous avons pu mutualiser l'achat de vaccins et relancer massivement nos économies. On la disait naïve sur le plan commercial. Elle a su imposer que les produits importés respectent les mêmes standards environnementaux que les produits européens. On disait à l'origine qu'elle était un marché. Aujourd'hui, l'Europe devient une puissance. Une puissance qui défend ses intérêts et veut conquérir son indépendance, avec un agenda d'autonomie stratégique pour les matières premières critiques et pour les médicaments, avec une nouvelle politique industrielle tournée vers la transition écologique et le numérique. Une puissance qui promet ses valeurs en luttant contre le travail forcé, contre les produits issus de la déforestation ou pour la régulation du numérique. Une puissance sociale qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes et impose à chaque pays de se doter d'un salaire minimum. Enfin, l'Europe devient une puissance géopolitique en réagissant de manière unanime face à la Russie, en finançant la livraison d'armes pour aider l'Ukraine, en renforçant sa sécurité et sa défense. Je n'ignore rien des défis qui restent à relever, qu'il s'agisse de l'énergie, des migrations ou des futurs élargissements. Nous sommes lucides sur le chemin qui reste à parcourir. Mais face aux cyniques qui caricaturent l'Europe et lui prêtent tous les maux, face aux prétendus patriotes qui affirment qu'il faudrait choisir entre l'amour de la France et l'attachement à l'Europe, j'assume de dire que l'Europe est l'un des projets les plus importants à bâtir. J'assume de dire que souveraineté nationale et souveraineté européenne se renforcent mutuellement. Sans nation forte, l'Europe est fragile, mais sans Europe puissante, nos nations seront plus faibles. Je suis fière d'être à la tête d'une majorité qui est la seule famille politique résolument pro-européenne. Et je le revendique, entre les extrêmes et nous, il y aura toujours l'Europe. Mesdames et messieurs les députés, en ce 9 mai, je souhaite à tous nos compatriotes une belle fête de l'Europe en leur rappelant, à un an des élections européennes, que l'Europe est un combat et que la majorité présidentielle est décidée à le mener. Je vous remercie.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. La parole est à Madame Francesca Pasquini pour le groupe écologiste.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Samedi, des croix celtiques, des nationalistes révolutionnaires, des cagoules et des masques noirs ont défilé à Paris sous la bannière du comité du 9 mai. En hommage à un militant du groupe pétainiste L'Œuvre française, décédé en 94. Des images terrifiantes, alors qu'un assistant parlementaire a été passé à tabac par cette même extrême droite une semaine plus tôt. Je souhaiterais faire remarquer la présence dans ce cortège d'anciens trésoriers du micro-parti de Madame Le Pen, que des membres du groupe Union Défense et des ex-Zouaves Paris. Eh oui, on ne masque pas ses origines si facilement. Cette manifestation n'a pas été interdite car, selon le préfet de police, elle ne constituait pas un risque de trouble à l'ordre public. Elle a donc été autorisée et encadrée par la police comme à chaque année. Mais ce n'est pas parce que l'ennemi est silencieux et marche au pas sans déborder qu'il n'est pas dangereux. Comment se célébrer le 8 mai 45 sans dénoncer la violence intrinsèque de ces groupes d'extrême droite? Il est inconcevable que l'État ne les considère pas par leur essence même comme un trouble à l'ordre public. Il y avait pourtant fondement à interdire ce cortège. Je vais vous dire sur quelle base, en reprenant les mots du président italien Pertini. Le fascisme, ce n'est pas une opinion, c'est un crime. Bien que ces manifestants aient tenté de dissimuler leur identité, nous ne sommes pas dupes. Nous saurons toujours les reconnaître, même sous les tissus les plus sombres, les ennemis de la République. Vous préférez vous en prendre à ceux qui battent le pavé à visage découvert pour défendre leurs droits à la retraite et à la démocratie plutôt qu'à des néo-nazis. Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Entendez-vous les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur... La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette manifestation est évidemment inacceptable. Et la première ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquantes pour la République. Je voudrais vous dire que cette manifestation n'a pas été déposée, contrairement à ce que j'ai pu entendre, par un collectif ou par une association, mais par un individu isolé, et que cette personne, comme individu isolé, bien évidemment, le préfet de police, c'est ce que nous pensons, puisque déjà, au mois de janvier dernier, sur le même motif, nous avons souhaité interdire cette manifestation, que le tribunal administratif de Paris, et je le regrette, nous a sommé, malheureusement, de pouvoir laisser s'organiser. Cette manifestation ne présentait pas a priori les difficultés qui nous permettaient, selon le code que votent les parlementaires. Le tribunal a jugé 3 mois avant, monsieur le député, les parlementaires, pour pouvoir interdire ces manifestations. Ceci étant dit, vu en effet ce que nous avons vu dans les rues de Paris, et vous avez parfaitement, madame la députée, raison de m'interpeller si vous me permettez sur ce point, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Je veux dire par ailleurs que s'il y a eu des violences qui ont été commises, vous avez parlé d'un attaché parlementaire, aucune plainte à ma connaissance et celle du préfet de police n'a été déposée. Je vous encourage à faire déposer ces plaintes le plus rapidement possible pour que la police puisse faire des enquêtes. Et je rappelle que c'est bien notre gouvernement qui, pour les Zouaves, qui pour Alvarium, qui pour Bordeaux Nationaliste, qui pour Génération Identitaire, avons dissous des groupes d'extrême droite qui étaient là depuis parfois plus de 30 ans sur le territoire national.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. La parole est à madame Elsa Fossillon pour le groupe Gauche démocrate et républicaine.
Merci, madame la présidente. Votre opération Tourner la page est un fiasco. Vos tentatives de diversion ne peuvent effacer votre passage en force s'agissant d'une réforme qui abîme si durement, si concrètement, si brutalement la vie des gens. Et les premières victimes sont bien réelles. Ce sont ces femmes et ces hommes qui, après toute une vie professionnelle, avaient planifié leur départ en retraite. Alors oui, ils étaient en congé de fin de carrière, car leur projet, c'était bien de partir en retraite. Et ils sont aujourd'hui contraints de revenir au travail. Pour faire la jonction avec leur nouvelle date de départ à la retraite, il leur est proposé de prendre un congé sans solde ou de reprendre leur poste avec un salaire lissé, donc diminué. Et vous savez très bien, monsieur le ministre, qu'il n'y aura pas que les 16 d'Orano. Et ce sont aussi des milliers de femmes et d'hommes suspendus à la publication des décrets d'application pour déterminer s'ils devront ou non retirer leur demande de départ à la retraite ou consentir à une décote de leur pension. Ce sont encore ces travailleurs et travailleuses venus du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne qui occupent les métiers les plus pénibles, qui ont des retraites de misère à cause de carrières hachées faites d'intérim et de périodes mal ou non déclarées par leur employeur. Et ils découvrent qu'aujourd'hui, il leur faudra rester 9 mois en France et non plus 6 pour bénéficier de l'ASPA. Du jour au lendemain, ce sont des projets de vie que vous brisez, des mois, des années de vie que vous volez. On hésite alors à savoir quoi juger sur votre gouvernement, votre manque d'anticipation ou votre malhonnêteté. Et vu le précédent sur les carrières longues et sur les 1200 euros, permettez-nous d'y voir un mensonge de plus. Un mensonge pour cacher votre déconnexion abyssale avec la vie des Français. Une marque de mépris supplémentaire. Et à n'en pas douter, votre réforme nous réserve encore beaucoup trop de mauvaises surprises. Alors non, décidément, nous ne tournerons pas la page, elle ne se tourne pas comme ça. C'est pourquoi les députés du groupe GDR, comme tous ceux de la NUPES, seront bien sûr au rendez-vous du 6 juin dans la rue, mais le 8 juin aussi, même, pour obtenir...
Merci beaucoup. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi.
Merci madame la présidente. Madame la députée Faucillon, vous avez évoqué la réponse que j'ai commencé à faire à monsieur Beige tout à l'heure. Je vais continuer simplement pour rappeler, et vous l'avez dit vous-même, aucun retraité n'est rappelé, aucun. Et aucune personne, aucun assuré qui peut faire valoir son départ à la retraite dans les conditions prévues par la loi avant le 1er septembre 2023 ne peut être concerné par un quelconque rappel. Il y a un certain nombre de salariés, vous l'avez dit, je l'ai dit, qui, à l'occasion d'un compte épargne temps ou d'un congé de fin de carrière, ont aujourd'hui un âge de départ qui va être décalé de 3 mois, et cela peut poser quelques problèmes de tuilage, si vous me permettez cette expression. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en contact avec chacune des sociétés concernées, pour les 16 personnes chez Orano, mais il y en a d'autres, dans d'autres sociétés industrielles. Et nous travaillons, en lien avec les équipes de la Première Ministre, pour convaincre les entreprises ainsi concernées qu'elles peuvent accompagner socialement les personnes qui sont concernées. C'est le travail que nous faisons pour faire en sorte que personne n'ait à revenir. Nous y travaillons et nous le faisons en sachant que le nombre de cas global ne sera pas un nombre de cas très élevé pour deux raisons. La première, c'est que, vous le savez, pour bénéficier d'un congé de fin de carrière ou d'un compte épargne temps crédité de 1 an ou plus d'un an, et c'est quand même une situation relativement rare et qui est plutôt le cas de très grandes entreprises. Et donc nous assurons ce suivi-là avec la plus grande attention. La deuxième partie de votre question, madame la députée, concernait les décrets d'application. Les principaux décrets, notamment sur ce qu'on appelle parfois les mesures paramétriques, décalage de l'âge de départ à raison d'un trimestre par an, ou accélération de la réforme de 2013, ont été transmis aux caisses pour avis. Ils seront publiés très rapidement, mais il y a une certitude, c'est qu'ils sont parfaitement conformes à la loi. Donc toutes celles et ceux qui devraient vous interroger peuvent s'appuyer sur la loi et les exposés des motifs comme l'ensemble des documents, puisque les décrets sont parfaitement conformes. Ils concernent l'âge, ils concernent la durée de cotisation, ils concernent aussi au 1er septembre la revalorisation des pensions minimum, les nouvelles règles de prise en compte des carrières longues, l'ouverture à la fonction publique de la retraite progressive ou encore la libéralisation de celle-ci pour le secteur privé. Au 1er septembre, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est l'ensemble des mesures de la réforme qui entreront en vigueur.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Gouffier-Valande pour le groupe Renaissance.
Merci, madame la présidente. Préalablement à ma question qui s'adressera à madame la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, en cette journée de l'Europe, je tiens à réaffirmer au nom du groupe Renaissance tout notre soutien aux femmes et aux hommes qui se battent en Europe et ailleurs dans le monde pour la défense du droit à l'avortement. Madame la ministre, depuis plusieurs semaines, le gouvernement est interpellé sur les tensions d'approvisionnement de misoprostol, cette molécule indispensable pour réaliser les IVG médicamenteuses, qui est la solution privilégiée par les femmes qui souhaitent avorter. Cette situation complique l'accès dans les officines de ville aux médicaments qui contiennent cette molécule, notamment le Gymiso et le Misoane, c'est-à-dire à la pilule abortive. Si toutefois nous ne pouvons pas parler de pénurie, puisque des stocks d'au moins un mois existent dans l'ensemble des centres, des établissements de santé, ces tensions ponctuelles interrogent et inquiètent de manière légitime. Aussi, pouvez-vous nous dire les raisons de ces difficultés et les mesures qui sont prises par le gouvernement pour la résorber ? En outre, madame la ministre, alors même que le droit à l'avortement est aujourd'hui attaqué de manière organisée et régulière par les mouvements conservateurs et d'extrême droite partout à travers le monde, y compris en Europe et en France, nous nous devons d'entendre les inquiétudes plus globales que révèlent les interpellations de ces dernières semaines. Et au moment même où nous travaillons à la constitutionnalisation du droit à l'avortement, à sa reconnaissance dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
européenne. Cet épisode vient nous rappeler l'enjeu majeur de l'égal accès de toutes les femmes à l'avortement. Cet enjeu, nous le soulevions déjà avec la délégation aux droits des femmes en mars et en novembre 2022. Et cet enjeu, vous le savez, pour notre groupe Renaissance, il est majeur. En 2023, en France, il n'est pas acceptable que des femmes qui souhaitent avorter rencontrent des difficultés, voire pire, renoncent. Aussi, pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures mises en place pour le gouvernement pour garantir l'égal accès de toutes les femmes à l'IVG et, au fond, le respect de leur droit à disposer de leur corps? Je vous remercie.
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Firmin Lobodeau, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé.
Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gouffier-Valente. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, retenu au Sénat cet après-midi. En cette journée de l'Europe, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour Simone Veil, première femme présidente du Parlement européen et qui a fait du combat pour l'émancipation des femmes et l'accès à l'IVG le cœur de son engagement politique. Les difficultés que vous évoquez concernent des tensions sur la fabrication de deux médicaments à base de misoprostol fournis par un seul laboratoire, le laboratoire suédois Nordic Pharma, avec un dysfonctionnement dans la chaîne de production pour le médicament Gymiso et un problème dans l'analyse du contrôle qualité pour le médicament Misoone, ayant décalé la production pendant 3 mois. Déconnaissance de l'existence d'éventuelles tensions, le ministre s'est assuré que l'ANSM avait pris toutes les mesures nécessaires pour garantir son accès aux professionnels de santé et aux centres IVG. Concernant les spécialités à base de misoprostol, des livraisons de la spécialité Gymiso, 46 500 boîtes, couvrant plus de 3 mois de consommation habituelle, ont débuté depuis le 7 avril dernier dans les circuits ville et hôpital. Ces livraisons ont permis d'honorer les reliquats de commande à hauteur de 6 000 boîtes. Les 40 500 boîtes restantes assurent une couverture large des besoins pour les prochaines semaines, dans l'attente de la prochaine livraison prévue début juin. Il s'agit notamment de mesures de contingentement pour garantir une distribution plus régulière et l'importation de produits destinés à d'autres marchés. Concernant la spécialité Misoone, les approvisionnements de la présentation hospitalière de 16 comprimés couvrent les besoins mensuels, mais des tensions subsistent sur la présentation en boîte de un comprimé. Depuis fin avril, des livraisons à hauteur de 45 000 boîtes sont en cours, permettant de normaliser durablement la situation. Afin de consolider la situation des approvisionnements, une importation de la spécialité italienne est en cours de destination des circuits ville-hôpital. Le ministère de la Santé et de la Prévention, en lien étroit avec l'ANSM, suit évidemment avec attention la situation. Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de l'ensemble du gouvernement pour garantir la pleine effectivité de l'accès à l'IVG pour toutes les femmes.
Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Alexis Corbière pour le groupe La France Insoumise.
Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, jeudi 4 mai, le président de la République a annoncé un profond bouleversement de l'enseignement professionnel. Avec emphase, il a déclaré, je le cite, « Ce n'est pas seulement une réforme, c'est une cause nationale ». Certes, l'enseignement professionnel qui accueille un tiers des lycéens le mériterait, mais votre projet n'est pas une cause, mais une casse nationale. Si on vous laisse faire, vous allez briser la spécificité de notre enseignement professionnel, qui, malgré des difficultés, mérite précisément beaucoup plus que ça. Vos annonces sidèrent par les dégâts qu'elles vont causer et qu'elles annoncent. Elles manifestent surtout une méconnaissance totale de la réalité. Dans beaucoup de médias, monsieur le ministre, vous avez annoncé que la philosophie de votre réforme, c'est rapprocher le lycée professionnel du monde de l'entreprise. Mais c'est déjà le cas. Tous les diplômes de l'enseignement professionnel, tous, sans exception, sont définis dans des commissions en présence de branches patronales. C'est aussi le cas pour la carte des formations. Mais pourquoi faire croire le contraire? Dans quel but? Alors que tous les élèves de terminale ont déjà 8 semaines de stage, vous proposez d'en rajouter 50% sans la moindre justification pédagogique. Votre modèle semble être celui de l'apprentissage contre la formation publique, mais vous savez qu'aujourd'hui, 3 élèves sur 4 sous statut scolaire vont jusqu'au bac quand c'est seulement 2 sur 5 qui arrivent dans l'apprentissage. Vous annoncez des fumeux des bureaux d'entreprise dans les lycées professionnels qui en vérité ne serviront qu'à répondre aux besoins immédiats et à courte vue du patronat. Vous proposez une rémunération pour les enseignants, mais monsieur le ministre, vous n'êtes que dans le slogan éculé de Sarkozy. Je vous ignorais d'ailleurs en accord avec lui, je vous ai connu autrement. Travaillez plus pour gagner plus. Vous annoncez une gratification pour les élèves. Nous disons oui à l'aide pour les enfants, mais pas avec de l'aide publique. Bref,
Merci.
Nous ne vous laisserons pas faire au lycée professionnel ce que vous avez fait pour les retraites.
Merci.
Retirez
beaucoup,
votre réforme.
Chers collègues. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Corbière. L'enseignement professionnel doit d'abord être crédible dans les entreprises pour déboucher sur des emplois. Ce n'est pas une citation de la majorité, c'est une citation de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, alors ministre de l'enseignement professionnel en 2000. En fait, ce qu'il n'a pas fait, nous allons le faire. Notre ambition, elle est claire, faire de la voie professionnelle une voie qui insère, une voie de choix, une voie d'excellence. Pour cela, nous l'assumons. Nous allons rapprocher l'école de l'entreprise. La voie professionnelle doit être professionnalisante. Elle doit effectivement ouvrir
s'il
des
vous plaît,
opportunités.
Un peu de silence, s'il vous plaît.
Pour les lycéens
professionnels,
nous allons donc réparer finalement cette méconnaissance des entreprises, accentuer le manque de réseau professionnel des jeunes, qui est un obstacle majeur dans l'accès au premier emploi. Nous allons y mettre les moyens. Ce qu'il faudra faire pour accompagner les élèves, c'est notamment la gratification des périodes de formation en milieu professionnel, mais également l'augmentation du nombre de semaines de stage, avec un montant de gratification qui ira de 600 à 1200 euros pour certains élèves en terminale. Cette mesure, mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, monsieur Mélenchon l'a proposée lorsqu'il était ministre. S'il avait mis autant de fougue dans les lycées professionnels que dans les vaines polémiques, nous aurions peut-être avancé. Aujourd'hui, Emmanuel Macron l'avait annoncé et il le fait. Mais non, nous ne recommençons pas la scolarisation des jeunes pour autant. Au contraire, nous allons corriger ces fragilités des élèves au lycée professionnel. Les matières fondamentales seront donc renforcées dès cette rentrée 2023, puis encore à la rentrée 2024, grâce notamment à la proposition de sous-groupes permettant de mieux les accompagner en mathématiques et français. Alors vous le voyez, mesdames et messieurs les députés, nous ne nous satisfaisons pas du statu quo qui conduit nos jeunes à l'échec. Nous portons une réforme ambitieuse.
Merci.
Le gouvernement investit plus d'un milliard d'euros par an supplémentaires. Notre objectif est clair, zéro décrochage,
merci
100%
beaucoup.
D'insertion.
La parole est à Madame Marietta Caramanli pour le groupe socialiste.
Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. Selon le FCE, l'inflation restera élevée jusqu'à la fin de l'année 2023 dans notre pays entre 5,5 et 6,5%. Cette forte hausse générale des prix à la consommation affectera aussi bien le pouvoir d'achat des ménages que la croissance du PIB français et le niveau de chômage du pays. Le gouvernement prédisait il y a 2 mois une baisse d'ici l'été. Nous n'y serons pas. En mars dernier, l'Institut national de la statistique et des études économiques a fait état d'une augmentation de près de 15% des prix alimentaires sur 12 mois. Évidemment, des mesures ont été prises, mais on est loin du compte. L'accès aux biens de première nécessité et aux dépenses contraintes devient très difficile pour les plus modestes. Les petits salaires juste au-dessus du SMIC et sans indexation n'ont aucune perspective d'évolution. Les retraites de base ont augmenté de 0,8% au 1er janvier 2023, mais une inflation de plus de 5% l'année passée. Dans de nombreux territoires ruraux et périurbains, la facture énergétique est encore plus forte qu'ailleurs, 20 à 40% avec des logements moins isolés et plus énergivores. Si la prime rénove a suscité de l'intérêt et s'est transformée en galère avec des travaux à payer sans versement rapide des primes, alors que la Commission européenne plaidait pour taxer les super profits dans le secteur de l'énergie, vous avez refusé. Alors que de nombreux économistes aujourd'hui plaident pour faire et contribuer les hyper riches qui n'ont un taux d'imposition effectif que de 2%, vous vous refusez pour des raisons purement d'idées à restaurer la justice fiscale. Alors des propositions existent. La baisse des taxes sur l'énergie, les négociations salariales pour accélérer l'augmentation des salaires, notamment ceux des plus modestes, des nouvelles mesures en matière d'accès à la rénovation énergétique par l'abaissement des seuils et un zéro à charge pour les plus modestes. Alors ma question est donc simple. Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre? Qu'allez-vous faire ce gouvernement?
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt. Ministre du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karamanli. Permettez-moi de vous répondre à la fois comme ministre du Travail, mais aussi comme ancien ministre des Comptes Publics, pour dire, Madame la députée, que si votre groupe, Madame la députée, avait voté toutes les mesures de soutien au pouvoir d'achat, votre critique serait un peu plus fondée. Nous sommes, je crois, le gouvernement qui a mis en place le plus de mesures, des mesures de lutte contre l'inflation, des mesures d'accompagnement des ménages, notamment pour la prise en charge des factures énergétiques, des mesures aussi pour faire en sorte que, face à cette inflation, le partage de la valeur soit véritablement au rendez-vous. Je prendrai deux exemples. D'abord, par le fait que nous avons mis en œuvre, et c'est normal, c'est la loi, les revalorisations du SMIC au risque de l'inflation, avec une revalorisation du SMIC de 6,2% sur un an. Nous veillons, comme le faisait ma prédécesseure au ministère du Travail, la Première ministre aujourd'hui, à ce que le comité de suivi des négociations salariales puisse être pleinement actif de manière à ce qu'à chaque fois qu'une branche voit un des niveaux conventionnels passer en dessous du SMIC, le dialogue social puisse être lancé. Et nous aurons l'occasion dans les toutes prochaines semaines, Madame la députée, de soumettre à l'Assemblée un projet de loi permettant de transposer dans la loi l'accord national interprofessionnel en matière de partage de la valeur, permettant, puisqu'il a été signé par 4 des 5 organisations syndicales et 3 organisations patronales, d'avancer en matière d'intéressement et de participation dans les entreprises de 11 à 50 salariés, d'avancer aussi dans le cas des entreprises qui réalisent des résultats exceptionnels pour qu'elles puissent verser un intéressement qui soit tout aussi exceptionnel. À chaque fois, nous serons au rendez-vous. J'espère que vous le serez avec nous cette fois-ci et pas comme les fois précédentes.
Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Alexandra Masson pour le Rassemblement national.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, le 5 mai dernier, un migrant guinéen lancé en direct sur BFM TV « On va vous envahir ». Il était au poste frontière de Menton, dans ma circonscription, quelques minutes après que j'ai constaté moi-même que ce poste du pont Saint-Louis ne faisait l'objet d'aucun contrôle de police, et ce, malgré vos annonces de renfort. Deux jours plus tôt, avec Jordan Bardella et mes collègues Brian Masson et Lionel Tivoli, nous avions pu constater pour la énième fois que les effectifs de la police aux frontières étaient largement insuffisants face à la vague migratoire qui a quadruplé en moins d'un an. En réponse à cette déferlante, vous n'avez trouvé rien de mieux que de traiter la chef du gouvernement italien d'incapable. Comme vous n'êtes pas un paradoxe près, en novembre, c'est exactement l'inverse. Giorgia Meloni était inhumaine et irresponsable en refusant d'accueillir les ONG qui récupèrent les migrants dans les eaux libyennes. Vos propos, monsieur le ministre, et vos actions sont désastreux, vos déclarations irresponsables. Au moment où nos deux pays doivent plus que jamais être partenaires, vous avez affaibli et terni l'image de la France en Italie, mais aussi auprès des milliers d'Italiens qui vivent et qui travaillent chaque jour dans notre pays. Monsieur le ministre, allez-vous présenter vos excuses à l'Italie et allez-vous enfin prendre vos responsabilités et installer de manière pérenne des effectifs à cette frontière qui protégera les Français ? Merci.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Masson, vous l'avez dit vous-même, depuis le 1er janvier, venant d'Italie, c'est 42 200 personnes qui se sont présentées en 2023, c'est-à-dire 4 fois plus en une année. Et en parallèle, vous auriez pu remercier les forces de l'ordre, Madame la députée, puisque c'est 80% d'interpellations et de refoulements à la frontière franco-italienne, de plus par nos forces de l'ordre. Vous n'avez pas eu un mot pour eux, moi je veux ici les remercier. Non mais vous avez le droit de ne pas soutenir les forces de l'ordre, vous n'énervez pas comme ça.
Allez-y, monsieur le ministre.
Je veux ici vous dire qu'en effet, il faudrait que tous les pays européens se mettent d'accord pour qu'il y ait des contrôles externes aux frontières de l'Europe, ce qu'on appelle l'enregistrement, pour pouvoir effectivement refouler les personnes aux frontières de l'Europe. C'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait aussi une procédure d'asile unique pour éviter les difficultés que vous évoquez. C'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait également revoir totalement le règlement Dublin parce que nos amis italiens ne reprennent quasiment plus de personnes dublinées. C'est tellement vrai, Madame la députée, qu'au Parlement européen, vous faites l'inverse d'ici et l'inverse de votre circonscription. Monsieur Bardella, votre chef du parti, le 20 avril dernier, a voté contre le mandat de négociation pour que ces problèmes soient résolus. Madame, vous ne vivez que des problèmes. Nous essayons de les résoudre.
Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame la députée.
Monsieur Darmanin, les forces de l'ordre, comme je vous le dis régulièrement depuis le 2 août, je pense que je les soutiens beaucoup plus que vous au poste frontière, parce que moi j'y suis régulièrement et je suis là à les écouter dans des difficultés terribles. Parce que ce que vous oubliez de dire, c'est qu'en ne réglant pas le problème migratoire, tous les jours, vous les mettez en danger. Et régulièrement, il y a des accidents et les forces de l'ordre souffrent beaucoup plus que ce que vous ne le pensez sur place. Alors arrêtez d'être incompétents, venez sur place et réglez le problème.
Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je constate, madame la députée, qu'il a fallu que je vous fasse la remarque pour vous soutenir les policiers. C'est un progrès. Et vous ne devez pas être très souvent dans votre circonscription parce que vous auriez constaté alors que 280 CRS est arrivé dans votre circonscription. Je crois que 280 CRS, ça se voit, encore faut-il que vous ayez les rencontrer.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Agnès Carrel pour le groupe Horizon.
Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté économique. Le pouvoir d'achat reste la préoccupation majeure des Français. L'inflation touche de plein fouet la majorité de nos concitoyens. Malgré la hausse du SMIC de ce 1er mai que nous saluons, les bas salaires se voient rattrapés par ceux qui touchent le SMIC. Et les difficultés pour finir les fins de mois sont le lot commun de beaucoup de nos administrés. Le sentiment des Français est que l'augmentation des prix, notamment dans l'alimentation, est sans fin. L'inflation a effectivement continué de grimper avec une hausse dans ce domaine de 15,8% en mars sur un an. Pourtant, le coût de l'énergie a baissé, tout comme celui du transport et du blé, a perdu 15% depuis 2 mois, ainsi que 35% pour l'engrais. Ce constat s'applique aussi pour la plupart des matières premières, mais ne se traduit pas, par exemple, à la pompe pour nos concitoyens, malgré la baisse significative du prix du baril. Certes, en France, les prix ne sont pas recalculés automatiquement, puisqu'il y a des renégociations qu'une fois par an et qu'elles ont déjà eu lieu pour cette année, mais concrètement, les industriels et les distributeurs semblent profiter de cette situation. Aussi, monsieur le ministre, vous avez demandé aux industriels de l'agroalimentaire et à la grande distribution de nouvelles négociations commerciales pour faire baisser les prix dans les magasins. Le gouvernement souhaite qu'après l'État et les distributeurs, qui ont fait des efforts avec le trimestre anti-inflation en prenant sur leurs marges, ce soit au tour des industriels de l'agroalimentaire de prendre leur part pour répercuter la baisse des cours de certaines matières premières, comme par exemple le blé. Vous espérez ainsi une baisse visible des prix à la rentrée de septembre grâce à cette réouverture des négociations. Mais les Français attendent la rentrée et la rentrée leur semble loin, beaucoup trop loin. Pouvez-vous nous faire un point sur ces avancées et rassurer nos concitoyens à l'approche de l'été ? Merci.
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs députés, madame la députée Agnès Carrel, il y a un an, les grands industriels étaient venus nous voir avec Olivia Grégoire, avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, en nous disant « les prix du fret maritime sont en train de flamber, sont passés à 12 000, 13 000, 15 000 euros le conteneur, les prix du blé sont en train de flamber, les prix du pétrole sont en train de flamber, il faut absolument que nous puissions répercuter tout de suite cette augmentation des prix de gros sur les prix de détail, sinon c'est nos industries qui vont être menacées. » Nous leur avons répondu et nous leur avons permis d'indexer l'augmentation des prix de gros sur les prix de détail. Et nous l'avons fait tout de suite pour protéger nos industriels et protéger nos emplois. Aujourd'hui, les prix de gros sont en train de baisser, les prix du fret sont en train de baisser, les prix du blé sont en train de baisser et les prix du brut sont également très faibles. Les industriels doivent sans délai répercuter cette baisse des prix de gros sur les prix de détail pour protéger nos compatriotes contre l'augmentation des prix alimentaires qui est insupportable pour eux. Je verrai cette semaine les distributeurs pour examiner avec eux comment est-ce qu'ils peuvent prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. La semaine prochaine, je réunirai tous les grands industriels, notamment ceux de l'agroalimentaire, mais pas uniquement l'agroalimentaire, pour leur demander de répercuter sans délai dans les négociations commerciales la baisse des prix de gros sur les prix de détail pour protéger nos compatriotes contre cette spirale inflationniste qui est insupportable pour eux. Soit ils acceptent de rentrer dans le jeu de cette négociation et de répercuter à la baisse les prix de gros sur les prix de détail. Soit nous ne voyons aucun mouvement, et dans ce cas-là, nous nous réservons avec Roland Lescure, avec Olivia Grégoire, le droit d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour que ces prix baissent et que nos compatriotes payent leurs produits alimentaires moins cher.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ma chère collègue.
On compte sur vous, Monsieur le Ministre. Il faut redonner du pouvoir d'achat et les Français nous attendent et ces signaux les remettraient en confiance. Merci à vous.
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe Lyot.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, alors que la police et la gendarmerie multiplient les arrestations d'envergure sur le terrain, la mobilisation de Mayotte pour soutenir l'opération Ambouchou ne faiblit pas. Des milliers de nos compatriotes ont encore défilé ce week-end à Akwa, dans le nord de l'île, mais aussi à Lyon, Marseille et Saint-Denis de la Réunion. Cette extraordinaire mobilisation citoyenne mahoraise traduit notre aspiration à vivre en sécurité, notre reconnaissance pour les efforts déployés pour nous permettre de retrouver une vie normale. Cette mobilisation traduit aussi notre gratitude pour l'écoute et pour la solidarité pour Mayotte, exprimée ici, au-delà des clivages partisans, mais aussi dans les médias et lors des manifestations. Être enfin entendu, que nos compatriotes nous comprennent, est capital. Cela nous redonne à nous espoir pour l'avenir de Mayotte, et pour cela, nous vous disons merci, ici, à tous. Cette mobilisation citoyenne porte aussi la dignité et le courage d'un peuple face aux mensonges du président comorien qui encourage implicitement la terreur et qui nie notre souveraineté nationale à Mayotte. Azali, qui se permet ici, à Paris, de faire la leçon à la France et de bloquer l'un des volets de l'opération Ambouchou en refusant de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière. Le chef de l'État comorien qui s'est entretenu avec le président de la République Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Ces négociations diplomatiques ont-elles abouti? Les Comores vont-elles enfin permettre les reconduites à la frontière? Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Estelle Youssoufa, d'abord merci de votre soutien à l'action du gouvernement, mais surtout des femmes et des hommes de l'État, et singulièrement bien sûr des forces de l'ordre sous l'autorité du préfet, que je voudrais ici une nouvelle fois saluer, puisque depuis que cette opération a été déclenchée, c'est 134 interpellations qui ont eu lieu, notamment, vous le savez, un tiers des bandes criminelles que nous avons dans le viseur de la justice, bien sûr, et de la police et de la gendarmerie, ont été interpellés sur le territoire de Mayotte, rendant ainsi évidemment très concret le travail de paix publique annoncé par l'action voulue par le président de la République. Destruction d'habitats illégaux, interpellation des fauteurs de troubles et des délinquants, et évidemment reconduite à la frontière pour plusieurs pays, le Sri Lanka, Madagascar, l'Afrique des Grands Lacs et bien évidemment les Comores. Depuis une dizaine de jours, vous l'avez dit, les liaisons maritimes et pas aériennes avec les Comores sont arrêtées. Et nous avons, avec la ministre des Affaires étrangères, ce midi rencontré nos homologues. Et un communiqué commun est sorti à 15h. Je vais vous en donner lecture, puisque les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de lutter contre le trafic et contre les passeurs, y compris par la reprise des liaisons maritimes, c'est-à-dire que les liaisons maritimes entre les Comores et Mayotte vont donc reprendre. C'est grâce à l'action du président de la République, qui hier a notamment reçu le président Azali. Le travail que nous menons à Mayotte pour la paix publique va pouvoir continuer. Et je vous l'ai dit, Madame la députée, nous laisserons autant de temps qu'il est nécessaire les policiers, les gendarmes qui, tous les jours, font ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait pour Mayotte, les Mahorais qui en ont bien besoin. Je veux leur dire à travers vous, à travers le député Mansour Kamardine, que de Mayotte, nous entendons leur soutien et nous les remercions évidemment pour cela.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame Youssoufa. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe La France Insoumise.
Madame la Première ministre, à la veille de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, une nouvelle forme de servitude s'abat de plein fouet sur les populations dites ultramarines dont la mobilité est forcément captive. Pour le seul mois de mars, le coût du billet d'avion a augmenté de plus de 50% en Martinique et en Guadeloupe. Et entre le 1er et le 25 août, il faudra débourser 2 231 € pour un Paris Fort-de-France contre 1 037 € pour un Paris Miami. La flambée du coût du kérosène, la guerre en Ukraine n'explique pas objectivement une telle différence de prix pour des durées de vol équivalentes. En réalité, les tarifs plus qu'abusifs imposés par des compagnies aériennes oligopolistiques vis-à-vis de peuples qui plient déjà sous la vie chère constituent un véritable scandale. Depuis 1976, l'État a doté la Corse d'une délégation de services publics. Au titre de la continuité territoriale, il y dépense aujourd'hui 220 millions d'euros, ce qui nous réjouit, mais seulement 45 millions d'euros pour l'ensemble des territoires dits d'outre-mer, ce qui nous révolte. Madame la Première ministre, au nom du principe d'égalité, quand adopterez-vous enfin dans les territoires dits d'outre-mer une vraie politique de continuité territoriale dotée de vrais moyens budgétaires à l'instar de la Corse?
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Merci, Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, pardon, je vous prie d'excuser Jean-François Carenco qui est actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais j'ai échangé avec lui ce matin. Il veut vous dire bien évidemment qu'il a tout à fait conscience et nous avons tout à fait confiance au gouvernement sur l'augmentation des prix, vous avez raison, de l'espace aérien, notamment pour nos compatriotes des Antilles. Et si nous avons augmenté à 50%, comme vous l'avez dit, ce n'est sans doute pas assez. Et Jean-François Carenco a rendez-vous avec Bruno Le Maire dans les tout prochains jours pour évoquer ce sujet, notamment d'inflation des billets d'avion sur la continuité territoriale. Jean-François Carenco vous recevra avec Clément Beaune à la fin de cette semaine, si vous le souhaitez, au début de semaine prochaine, l'ensemble des parlementaires d'outre-mer et singulièrement, évidemment, des parlementaires antillais. Je me permets de dire, monsieur le député, mais vous le savez, que les collectivités locales, également, que vous connaissez bien, ont aussi une possibilité qu'ils n'ont pas utilisée jusqu'à présent, c'est de contribuer avec l'État qui va faire cet effort supplémentaire pour que pour nos concitoyens ultramarins, les prix soient moins chers, en lien avec les compagnies aériennes et en lien avec le secteur économique poussé par Bercy. C'est une vraie question que vous posez, bien sûr, monsieur le député. L'État a apporté une première réponse d'augmentation à 50% de sa prise en charge. Il faut désormais que nous aidions davantage encore nos compatriotes antillais.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Nilor.
Monsieur le ministre, je suis désolé, mais je vous parle de prix des transports aériens et on dirait que vous voulez me mener en bateau. Dans tous nos outre-mer, la colère gronde et les gens ont de plus en plus le sentiment de se faire racketter par les compagnies aériennes organisées en oligopole sous le regard complice de l'État et de la Commission européenne.
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Mathieu Marchio pour le Rassemblement national.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, la colère des Français contre la réforme des retraites ne retombe pas. Cette réforme injuste et antisociale, vous êtes obstiné à la mener dans un contexte pourtant particulièrement difficile pour nos compatriotes. La hausse des prix est durement ressentie par les classes populaires et moyennes, celle-là même que vous assommez un peu plus en les condamnant à trimer plus longtemps au travail ou au chômage avant de gagner une retraite qui ne leur permettra même pas de boucler les fins de mois. Vous avez menti à tous ces Français modestes en promettant une retraite minimum à 1 200 euros. Et ce n'est pas les mesures que vous annoncez qui viendront faire oublier vos perfidies. Vous distribuez des chèques qui ne sont en rien une réponse durable aux besoins des Français, mais qui vous permettent, du moins vous l'espérez, d'acheter la paix sociale. Là encore, personne n'est dupe. Votre politique gouvernementale est devenue l'archétype d'une déconnexion profonde avec la réalité que vivent la majorité des Français. Alors que des Français peinent à faire le plein de leur véhicule et en assurer l'entretien, vous faites la promotion d'un plan vélo à 2 milliards d'euros. Mais, monsieur le ministre, allez donc dire aux habitants du bassin minier de prendre leur vélo sur la rocade minière pour aller travailler. Vous n'avez décidément rien compris. Et vos priorités aujourd'hui sont de créer une cellule de com anti-RN ou de forcer les mairies à apposer le drapeau européen sur leur fronton. C'est vrai qu'avec ça, les gens vont vivre mieux. Alors, je vais vous prendre au mot. Vous qui nous reprochez de citer Marine Le Pen, il est vrai que sa popularité vous dérange, je vais citer du Emmanuel Macron. Pour les gens qui ne sont rien, le mépris social, vous l'arrêtez quand?
Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Marchio. Mais ce sont les solutions du Rassemblement national qui sont totalement déconnectées de la réalité. Si nous avions suivi depuis quelques années les solutions du Rassemblement national et de Marine Le Pen pour faire face aux problèmes des Français, qu'est-ce que cela aurait concrètement donné ? Nous aurions un retour à la retraite à 60 ans qui aurait ruiné le système de retraite par répartition. Nous serions sortis de l'euro, comme l'avait proposé Marine Le Pen, alors que l'euro nous a protégés face à la crise du Covid et nous a permis d'émettre de la dette en commun. Nous aurions, monsieur le député Marchio, pendant la crise du Covid, nous aurions tous été soignés à la chloroquine. Je ne suis pas sûr que la santé des Français s'en serait bien portée. Et si nous avions suivi les solutions de Marine Le Pen, nous serions aujourd'hui du côté de la Russie et pas de l'Ukraine, de l'oppresseur et pas de la liberté, de l'agresseur et pas du résistant. Voilà la réalité des propositions de Marine Le Pen. Quant à l'inflation, quelle est la seule proposition que vous ayez portée ? Pas le gel des prix du gaz, vous ne l'avez voté. Pas le plafonnement des prix de l'électricité, vous ne l'avez pas voté. Pas l'indemnité carburant travailleur, vous ne l'avez pas voté. Pas la revalorisation des minima sociaux, vous ne l'avez pas voté. Vous n'avez rien voté, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, de ce qui protège aujourd'hui les Français contre l'inflation. Votre seule solution, c'est la baisse de la TVA qui va engraisser les distributeurs au lieu de protéger les consommateurs et nos compatriotes. Oui. Les solutions du Front National ne sont depuis 10 ans que des illusions et nous cesserons de les dénoncer pour proposer, nous, des solutions concrètes, efficaces et tangibles.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Marchio.
Il y a un an, en visite dans le bassin minier, Emmanuel Macron avait entendu ce que les gens pensaient de son projet. Leurs sentiments n'ont pas changé, ils n'attendent rien de vous. Vivement l'alternance. Bravo.
Je vous remercie. La parole est à madame Charlotte Gucci-Bolognaise pour le groupe Renaissance.
Merci madame la présidente. Madame la ministre, la semaine dernière, le président de la République détaillait les grands axes de la réforme des lycées professionnels. Lutte contre le décrochage scolaire, insertion professionnelle et revalorisation du travail des enseignants. Ces annonces sont cruciales car elles concernent un très grand nombre de lycéens de notre pays. En effet, chaque année, un collégien sur trois s'oriente vers un lycée professionnel, ce qui représente 621 000 élèves et 64 000 apprentis. Des annonces importantes alors que nous entrons dans l'année européenne des compétences. Elle devra notamment permettre une meilleure mobilité internationale des apprentis via le programme Erasmus+. Pendant longtemps, les lycées professionnels ont été dévalorisés. Il nous appartient aujourd'hui de leur redonner le rayonnement qu'ils méritent. À ce titre, nous ne pouvons que nous réjouir des mesures annoncées, que ce soit en adoptant la terminale à chaque lycéen avec une gratification des stages ou encore un renforcement du lien entre lycée et entreprise. Parce qu'une main-d'œuvre qualifiée est synonyme d'emploi mieux rémunéré, il est primordial d'accompagner nos jeunes vers les secteurs d'avenir. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous me préciser si une réforme de la carte des formations est envisagée, tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire ? Je vous remercie.
Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Gucci-Bolognaise. Effectivement, nous marquons aujourd'hui, pour cette journée de l'Europe, le lancement de l'année européenne des compétences et qui suit l'année européenne de la jeunesse. Je voudrais effectivement aussi replacer ce contexte de la réforme du lycée professionnel dans cette dynamique sur laquelle la France est leader, avec son augmentation exceptionnelle de l'apprentissage, mais aussi sa forte mobilisation du compte personnel de formation avec une large popularisation de cet outil et l'évolution de la validation des acquis d'expérience que nous avons développé.
développer. Mais c'est aussi tout le sens que vient prendre la réforme des lycées professionnels que le président de la République a présentée la semaine dernière à Saintes. Cette réforme, elle vise très concrètement à lutter contre le décrochage scolaire trop fréquent en lycée professionnel, non pas du fait des lycées professionnels et des personnels éducatifs, je tiens à le redire, parce que ces fragilités-là existaient déjà auparavant. C'est pourquoi nous allons travailler, nous avons déjà travaillé dès le primaire, le collège également, pour travailler sur le décrochage scolaire, pour favoriser l'insertion professionnelle et la poursuite d'études réussies de ces jeunes et valoriser ces filières stratégiques pour le pays. C'est le changement d'image que nous devons pouvoir opérer de la voie professionnelle et cela passera évidemment par la réussite des jeunes, mais aussi l'ouverture de filières qui ouvrent de véritables perspectives professionnelles d'avenir. C'est donc pour cela que dès cette rentrée prochaine, de nouvelles formations seront ouvertes avec de nombreuses places dans certaines filières qui seront ouvertes. Plus de 1000 places seront ouvertes dès la rentrée prochaine, en ayant également un énorme travail sur l'attractivité des filières, des métiers, dès la formation, dès l'insertion quelque part et dès la découverte des métiers, nous travaillerons là-dessus et nous fermerons des formations dont les taux d'insertion ne sont pas suffisants et nous avons des taux d'insertion qui approchent les 10% pour certaines formations. C'est donc aussi pour chaque territoire que des formations pourront être ouvertes ou pas. Lorsqu'on regarde les 10 premiers métiers recherchés, les 7 premiers au moins concernent tous les territoires. Nous travaillerons là-dessus. 1 milliard d'euros investis en plus chaque année.
Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Fabien Roussel pour le groupe GDR.
Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Industrie, j'étais ce matin avec une délégation d'élus communistes à Trie-Saint-Léger à la rencontre des salariés de Valdunes, menacés par le départ de son principal actionnaire, le chinois Mastil. Valdunes, avec son site de Trie-Saint-Léger et sa forge à Lefrancouc, est la seule, l'unique entreprise française à réaliser des roues, des axes, des essieux pour faire rouler nos trains, nos métros, nos tramways. C'est la seule en France. Le savoir-faire de ces 346 salariés est unique. Nous avons besoin de ces deux sites, Trie-Saint-Léger et Lefrancouc, pour livrer le matériel nécessaire à nos régions via Alstom et à nos entreprises publiques que sont la SNCF et la RATP. Cette usine a été livrée il y a des années à des actionnaires étrangers. Ils s'en vont, dont acte. C'est l'occasion de reprendre la main sur un outil stratégique indispensable à notre filière industrielle comme à la transition écologique. D'abord, il revient à la SNCF de faire travailler la France plutôt que d'autres pays. La SNCF commandait encore, il y a 10 ans, 45 000 roues par an et 5 000 essieux à Valdunes. L'année dernière, ce chiffre est tombé à 3 500 roues par an et 3 essieux. La SNCF, la RATP et Alstom, qui vivent largement grâce à l'argent public, doivent s'engager à travailler d'abord avec Valdunes plutôt que de profiter avec cynisme de la concurrence libre et non faussée. Car une heure de travail qui part en Chine ou à l'étranger, c'est une heure de chômage que nous payons ici en France. Et il faut arrêter avec ça. C'est ça qui tue notre industrie et nos emplois. Pour rendre compétitif Valdunes, il faut aussi investir dans sa forge et lui garantir du gaz et de l'électricité pas chère et décarbonée. Et c'est possible. Il faut régler ce problème énergétique. Monsieur le ministre, vous travaillez à un plan en faveur de l'industrie verte. Eh bien, Valdunes doit en faire partie. La BPI doit pouvoir rentrer rapidement dans le capital de l'entreprise pour lui garantir son avenir et attirer des investisseurs, des industriels et non des prédateurs financiers. Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie.
Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Fabien Roussel, d'abord, j'aimerais reconnaître que contrairement à d'autres qui découvrent Valdunes quand elle fait la une, vous êtes déjà depuis de nombreuses semaines aux côtés des salariés, les 130 qui travaillent à Lefrancouc et les 250 à Trie-Saint-Léger, puisque vous m'avez déjà alerté sur cette situation, je tiens à le souligner. Situation pas facile, parce que vous l'avez dit, Mastil, depuis racheté par Baosteel, grande entreprise publique chinoise qui, étant détenue par l'État, n'a pas le droit d'aider des entreprises à l'international, avait acheté Valdunes en espérant pouvoir vendre des roues en Chine. Ça n'a pas été possible. On a du coup aujourd'hui une entreprise qui est en surcapacité, qui ne vend des roues aujourd'hui qu'en France, et vous l'avez dit, insuffisamment. À partir de là, il faut qu'on regarde de très près la situation, avec d'abord l'actionnaire et la direction, pour qu'à court terme, ça va être ma priorité des jours et des semaines qui viennent, on puisse continuer l'activité sur le site, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, l'acier qui sert pour faire les roues de Valdunes, il vient de Chine. et il y a un risque d'arrêt de l'approvisionnement. Ça va être ma priorité à très court terme. Et du côté de l'approvisionnement en énergie, également, vous l'avez dit, l'énergie de Valdunes vient aujourd'hui d'Ascoval, le voisin, on a besoin de s'assurer que ce soit pas trop cher. À moyen terme, on va devoir trouver un repreneur avec, vous l'avez dit, un outil de travail qui est obsolète. La forge, elle a plus de 50 ans. On a des besoins d'investissement forts. On a aussi besoin de retrouver de la compétitivité sur le site qui fabrique les roues. J'ai bien peur qu'une solution du type BFI ne soit pas suffisante. On ne va pas nationaliser la production de roues, en France. On doit trouver un investisseur stratégique, pas un investisseur financier, vous l'avez dit, qui va nous permettre de redresser tout ou partie de l'activité. En attendant, évidemment, on suit de très près la situation, y compris celle des salariés qui travaillent encore pour cette entreprise. Merci.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe Les Républicains.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Armées. Le 4 avril dernier, vous avez présenté la loi de programmation militaire pour 2024-2030. Ce texte, qui fixe les orientations de notre politique de défense pour les 7 prochaines années, consacre un budget de 413 milliards d'euros à nos armées, soit 2,1% du PIB. Cet effort budgétaire important n'est pas un luxe, mais un impératif au regard de la dégradation du contexte géopolitique, marqué par la guerre en Ukraine ainsi que par l'émergence de nouvelles menaces. Terrorisme, notamment en Afrique, prolifération nucléaire de la Corée du Nord et de l'Iran, guerre sous voûte nucléaire de la Russie, menaces hybrides en particulier dans les Outre-mer. À cette instabilité géopolitique s'ajoutent des sauts technologiques continus dans les domaines de la robotique, des drones et bientôt de la technologie quantique ou de l'intelligence artificielle. Dans ce monde chaque jour plus dangereux, la guerre en Ukraine a montré que la manière de faire la guerre évolue elle aussi. Outre les champs de conflictualité traditionnels, air, terre, mer, il faut désormais ajouter l'espace et les fonds marins, mais aussi les champs immatériels, tels que le cyberespace ou les fake news. La France ne peut pas ignorer ces nouveaux enjeux géostratégiques si elle veut assurer ses missions prioritaires en matière de défense. Certes, la LPM consacre des moyens budgétaires importants pour l'adaptation de nos armées aux enjeux actuels, notamment en matière technologique. 4 milliards sont dédiés au cyber, 6 milliards à l'espace, 8 milliards au numérique et 10 milliards à l'innovation. Mais on peut toutefois regretter que ces investissements ne soient pas au niveau de ceux réalisés par le Royaume-Uni ou l'Allemagne et que surtout ces efforts soient prévus après le quinquennat d'Emmanuel Macron, alors qu'il faudrait prévoir une montée en puissance dès 2025. Sans compter, Monsieur le Ministre, que la politique de défense est avant tout une affaire humaine. L'armée a besoin d'hommes et de femmes prêts à s'engager pour leur pays. Alors, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous indiquer comment vous comptez mettre les ressources humaines des armées en cohérence avec les ambitions stratégiques de la LPM ? Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Madame Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire.
Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Duby-Muller. J'excuse Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui est actuellement en train de suivre la situation en Guyane. Les cyberattaques auxquelles notre pays est confronté sont plus nombreuses depuis quelques mois. Des actions cybercriminelles, par exemple contre l'hôpital de Corbeil-Essonne, des actions de groupes de hackers comme le site du Sénat la semaine dernière, des actions plus stratégiques provenant d'États, de sabotage, de renseignements. Sachez que la France prend déjà la menace cyber très au sérieux. Les agents de l'ANSSI, qui dépendent de la Première ministre, sont les pompiers cyber de la France. Nous renforcerons leurs prérogatives dans la prochaine loi de programmation militaire. D'autres ministères sont également impliqués, notamment Bercy, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay. Quant à lui, le ministère des Armées développe ses capacités cyber pour garantir les opérations militaires, notamment la dissuasion, pourront continuer malgré d'éventuelles attaques cyber. Le ministère des Armées contribue aussi à la cyberdéfense de la nation, même si vous me permettez de rester discrète à ce sujet. Nos services de renseignement participent à l'imputation d'attaques. La DGA met à disposition son centre d'expertise pour l'analyse des logiciels malveillants. Le ministère est en charge de la réponse cyber à une attaque. Face à l'augmentation des menaces, nous souhaitons que la France reste dans le match des grandes nations du cyber. Pour développer notre capacité de détection sur nos systèmes et nos moyens de riposte, notamment en utilisant l'intelligence artificielle et le quantique. Nous proposons dans la LPM de mettre en place une filière d'excellence cyber autour de l'école polytechnique. Aussi, nous souhaitons doubler la réserve cyber, qui est un pont entre les entreprises et l'État. C'est un effort auquel toute la nation doit se préparer. Le ministère des Armées prendra sa part. La LPM sera débattue tout à l'heure en commission et nous y répondrons. Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Paul-André Colombani pour le groupe IOT.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions. Cette citation pourrait être l'accroche d'une série policière. Il n'en est pourtant rien. Ces mots, ce sont ceux prononcés récemment par Laure Bécuo, procureur de Paris, à la tête de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée. Elle décrit l'essor vertigineux du crime organisé en Europe, dépassant aujourd'hui toute imagination. La situation est pour le moins inquiétante et les groupes mafieux sont, dit-elle, aujourd'hui sans limite en termes de financement, de projection géographique et de recours à la violence. Des pays frontaliers comme les Pays-Bas ou la Belgique constatent avec impuissance l'emprise grandissante de la macromafia qui menace sérieusement leur fonctionnement démocratique. La Commission européenne s'est emparée du sujet et annonce vouloir légiférer en matière de lutte contre le crime organisé. La France elle-même n'est évidemment pas épargnée par les phénomènes mafieux, loin s'en faut. Face à ce constat, monsieur le garde des Sceaux, vous l'avez dit avec lucidité dans une interview accordée aux Parisiens la semaine dernière, il n'est désormais plus possible de fermer les yeux. À ce sujet, je vous avais interpellé sur la mise en place de 3 mesures également réclamées par les collectifs anti-mafia. Premièrement, la nécessaire évolution du statut du repenti. Deuxièmement, la confiscation systématique des avoirs criminels, faisant d'ailleurs l'objet d'une PPL portée par mon collègue Jean-Luc Warsmann, qui a fourni un travail remarquable. Enfin, une évolution législative inspirée des normes ayant déjà fait leurs preuves en Italie et dans le cadre du dispositif qui protège les marchés publics du tunnel Lyon-Turin. Aussi, êtes-vous prêt, monsieur le garde des Sceaux, à placer ces mesures au cœur de votre stratégie de lutte contre la mafia et à faire de celle-ci une grande priorité ? Je vous remercie.
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Colombani, votre question est une question intéressante. Durant trop longtemps, nous avons négligé ces phénomènes criminels et vous avez rappelé à juste titre ce que des organisations criminelles ont été capables de faire en Belgique récemment et aux Pays-Bas. La réponse, elle est triple, si j'ose dire. D'abord, une réponse européenne, n'en déplaise aux eurosceptiques. Enquête commune, Eurojust, e-evidence, sur lequel nous avons travaillé. Et qu'il me soit permis de dire que récemment, les enquêtes communes ont permis de démanteler les 2 plus gros trafics de drogue de l'histoire. Deuxième volet, vous avez 1000 fois raison, il faut taper au portefeuille, la confiscation des avoirs criminels. La GRASC y travaille. Nous avons multiplié les antennes à GRASC. Récemment, nous sommes allés avec Gabriel Attal faire une vente qui nous a rapporté beaucoup d'argent. Et nous avons la possibilité aujourd'hui, vous le savez, de confisquer des immeubles et de les distribuer à des associations caritatives. Je veux remercier chaleureusement le député Warsmann avec lequel nous travaillons en permanence. Troisièmement, le statut du repenti. Je suis allé il y a une dizaine de jours en Italie pour m'inspirer de ce qu'ils font parce qu'ils connaissent, hélas, depuis très longtemps les phénomènes mafieux. Je veux remercier à cet instant précis Sacha Houlier, président de la commission des lois, mais également le président Marcangeli avec lequel nous avons commencé à travailler. Et je vous annonce que d'ici la fin de l'année, un texte sera prêt sur cette question des repentis.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Alexandre Holroyd pour le groupe Renaissance.
Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de la Transition écologique. Un parc immobilier zéro émission d'ici 2050, c'est l'ambition qu'a fixée le Parlement européen il y a quelques semaines à Strasbourg. En cette journée de l'Europe, qui nous est si chère, en tout cas à beaucoup d'entre nous, c'est sur cet objectif triplement essentiel que je veux insister, monsieur le ministre. Essentiel parce que vital pour notre planète. Le bâtimentaire, c'est 36% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. essentiel ensuite pour le portefeuille des Françaises et des Françaises. 1 euro sur 20 dépensé par nos concitoyens est dépensé pour se chauffer. Primordial aussi, monsieur le ministre, pour notre souveraineté nationale et européenne, pour réduire nos dépendances énergétiques qui constituent une faiblesse collective majeure dans un monde toujours plus incertain. Monsieur le ministre, cette majorité, depuis plus de 6 ans, s'est pleinement engagée pour réaliser la décarbonation de notre parc immobilier. Je pense aux lois Élan, je pense à la loi Climat et Résilience. Ce matin, j'étais à vos côtés en tant que président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, avec notre collègue Thomas Cazenave, président de la délégation aux collectivités territoriales, pour le lancement d'un vaste chantier national, celui de la rénovation thermique de toutes les écoles du pays. De quoi parlons-nous ? De 12 millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens, de 50 000 écoles, de collèges, de lycées, de la France, partout, aux 6 coins de l'Hexagone. De la moitié du bâtimentaire public, monsieur le ministre. À l'image des immenses chantiers du 19e siècle, monsieur le ministre, de Guizot et de Ferry, ce grand projet de restauration écologique de nos écoles doit fédérer toutes les forces vives de notre pays autour de cette ambition alliant transition écologique, souveraineté énergétique, vertu pédagogique et bon sens financier. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous ici, devant la représentation nationale, nous détailler comment, avec les collectivités territoriales, vous entendez garantir à nos petits-enfants réels ou hypothétiques que leur école répondra à l'objectif européen ou qu'elle se situe sur le territoire national.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Holroyd. Vous avez évoqué cette réunion de travail de ce matin qui a permis à l'ensemble des forces vives de se retrouver autour de ce grand chantier promis par le président de la République, rappelé le 24 avril dernier et confié à la Première ministre comme étant une des briques essentielles de la planification écologique qu'elle coordonne. 130 millions de mètres carrés, voilà la somme du bâti scolaire dans notre pays. Et ça donne une idée des enjeux, et je dirais même du triple enjeu qu'il y a derrière. Un enjeu climatique pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, un enjeu budgétaire pour faire en sorte que les collectivités puissent maîtriser l'évolution de leurs factures énergétiques compte tenu des tendances que nous connaissons, et enfin, je dirais un enjeu de transmission. Parce que quand on apprend dans des bâtiments qui sont ou trop chauds ou trop froids, la qualité de la transmission pédagogique ne se passe pas dans les mêmes conditions. Et aider nos enseignants, aider nos professeurs dans la continuité de ce que Pape Ndiaye et Carole Grandjean font, c'est évidemment faire en sorte qu'il y ait un cadre qui permette de le faire. 5 outils à disposition des collectivités territoriales. D'abord, les C2E dans le cadre du programme Acté+. On parle de 220 millions d'euros. Ensuite, le fonds chaleur, 520 millions. Le fonds vert, qui est la nouveauté pour l'année, 2 milliards. Et j'ai le plaisir de vous indiquer que sur les 1300 premiers lauréats, 200 sont des bâtiments scolaires qui vont bénéficier de rénovation. Ensuite, 2 nouvelles. D'abord, le tiers financement. La PPL Cazenave, votée à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat. Aujourd'hui même, les décrets d'application seront soumis à consultation. Enfin, ce que la Caisse des dépôts et consignations, sous votre surveillance, monsieur le Président, lance avec EduRénov, 10 000 écoles que nous allons pouvoir initier d'ici la fin du quinquennat. Ça a été au cœur de la réunion de ce matin. Ça va maintenant se décliner avec toutes les associations d'élus mi-mai, puis en faisant en sorte de revenir vers tous les maires de France avec une communication qui sera ciblée avant le début de l'été pour leur préciser les moyens de relever ensemble ce chantier du siècle pour le climat, pour le budget et pour nos enfants.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Marianne Maximi pour la France Insoumise.
Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, hier nous commémorions la victoire des Alliés sur la barbarie nazie. Samedi, des nostalgiques des jeunesses hitlériennes défilaient bien tranquillement dans les rues de Paris, accompagnés de deux proches de madame Le Pen. Depuis, silence sur les bancs des ministres. Vous qui êtes si prompt à condamner et interdire, votre silence, monsieur le ministre, veut-il donc approbation ? Alors que des dizaines d'événements contre la réforme des retraites sont régulièrement interdits, cette manifestation était autorisée par la préfecture qui a considéré qu'il n'y avait pas de risque de trouble de l'ordre public. Comment le croire ? Dans un contexte où les agressions d'extrême droite se multiplient, comme il y a quelques jours, où des néo-nazis se rendant à la finale de la Coupe de France ont agressé des passants simplement parce qu'ils n'étaient pas blancs et ont tabassé un de nos assistants parlementaires qui essayait de filmer ces exactions. Et je vous le confirme, monsieur le ministre, il a bien déposé plainte. Comment le croire quand la préfecture, dans un arrêté du 5 mai, a autorisé l'emploi de drones pour surveiller justement cette manifestation, pour prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public ? La préfecture est de mauvaise foi quand elle se cache derrière le risque d'annulation d'une interdiction par le tribunal administratif. De nombreuses interdictions de manifestations contre la réforme des retraites ont déjà été cassées par la justice sans que cela vous empêche de continuer d'en prendre. Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Doit-on comprendre que les casseroles sont plus dangereuses pour l'ordre public que les fascistes violents ? C'est malheureusement le message que vous envoyez quand vous permettez que le président fasse vider les Champs-Élysées pour défiler à l'abri du bruit des casseroles et qu'on autorise le bruit des bottes à retentir dans nos rues grâce à la complicité du silence des pantoufles du gouvernement. Monsieur le ministre, cessez de stigmatiser le peuple qui lutte. Voyez la violence de l'extrême droite qui s'organise sous votre nez. Quand allez-vous agir ?
Je vous remercie. La parole est à Madame Sonia Backès, secrétaire d'État à la citoyenneté.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maximi. Oui, la Première ministre l'a dit et le ministre de l'Intérieur l'a dit, les images que nous avons vues samedi sont insupportables. Mais oui, la boussole du ministère de l'Intérieur, c'est le respect de l'état de droit et des décisions de justice. Le respect de l'état de droit, c'est de décider sur la base de la loi et des décisions de justice si une manifestation peut se tenir ou pas. Le respect de l'état de droit, c'est concernant l'ultra-droite, une main qui n'a pas tremblé avec la dissolution par le ministre de l'Intérieur de 12 groupuscules d'ultra-droite depuis 2017. Le respect de l'état de droit, c'est il y a quelques mois la dissolution des Zouaves de Paris qui organisaient des actions racistes, antisémites, contre les homosexuels, contre les transsexuels. Le respect de l'état de droit, c'est l'interdiction par les préfets de plusieurs manifestations d'ultra-droite ces derniers mois, à Montpellier, à Paris, à Lyon. Le respect de l'état de droit, c'est l'enquête qui est en cours sur l'agression dont a été victime votre collaborateur parlementaire. Et le respect de l'état de droit, c'est la décision rendue publique il y a quelques instants par Gérald Darmanin d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite, parce que le respect de l'état de droit, c'est aussi la sanction systématique et sans concession de tous les propos et de toutes les actions à caractère raciste ou antisémite. Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Croizier pour le groupe démocrate.
Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Électriciens, menuisiers, agents de sécurité, maçons, boulangers, vendeurs, conducteurs d'engins, cuisiniers, comptables, aides-soignants, métiers de la petite enfance ou de l'aide à la personne. Au masculin comme au féminin, ces métiers ont en commun de travailler au quotidien auprès des Français et pour beaucoup d'entre eux, de s'apprendre en lycée professionnel. Les députés démocrates considèrent que la réforme du lycée professionnel présentée jeudi dernier par le président de la République est un enjeu majeur pour l'avenir de notre jeunesse et un défi de ce quinquennat. Tout d'abord parce que le lycée professionnel accueille un lycéen sur trois. Ensuite, parce qu'il accueille majoritairement des élèves qui cumulent les vulnérabilités scolaires ou sociales. Et enfin, parce qu'il est malheureusement encore aujourd'hui rarement un choix, alors qu'il forme des femmes et des hommes qui seront les faiseurs de nos grandes transitions, les bâtisseurs des futures grandes innovations et les acteurs de l'accompagnement humain et social qui nous est cher. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate est très exigeant sur l'ambition de la réforme. Le lycée professionnel se doit d'être une voie de réussite professionnelle, une voie de réussite personnelle, une filière d'excellence. La réforme doit porter en elle la promesse républicaine de l'ascenseur social. Aujourd'hui, seul un lycéen sur deux parvient à l'emploi une année après l'obtention de son diplôme. Madame la ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, nous devons à ces jeunes un parcours vers la réussite. Nous leur devons l'égalité des chances. L'objectif est de parvenir à 100% d'insertion professionnelle est un objectif ambitieux. Comment entendez-vous favoriser la réussite professionnelle en atténuant les inégalités sociales qui persistent? Comment entendez-vous agir contre le décrochage scolaire qui est un sujet clé? En résumé, Madame la Ministre, comment comptez-vous réaffirmer le lycée professionnel mission d'ascenseur social?
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée de l'Enseignement et de la Formation professionnelle.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Croisier. Je sais votre engagement sur ce sujet. Vous pouvez compter sur notre engagement principal sur la question de la lutte contre le décrochage scolaire. C'est un enjeu majeur de cette réforme, vous l'avez rappelé. Je tiens à le redire, il y a 10 fois plus de chances de décrocher pour un élève venant du lycée professionnel et 2/3 des décrocheurs viennent de la voie professionnelle. C'est un enjeu majeur pour le lycée professionnel, non pas du fait, encore une fois, des enseignants et de ses équipes pédagogiques, mais du fait de nombreuses fragilités du système. Vous l'avez rappelé, orientation subie, plus faible niveau scolaire, difficultés diverses, notamment sociales, celle du handicap ou de la langue française, jeunesse des élèves, toutes ces fragilités-là font que si nous n'agissons pas, ces élèves ne vont pas jusqu'au bout du parcours. Si pendant le quinquennat précédent, nous avons travaillé sur l'école primaire, si aujourd'hui Pap Ndiaye accompagne une réforme du collège pour pouvoir accompagner ces fragilités scolaires, nous devons faire du lycée professionnel également un acteur engagé pour lutter contre ce décrochage. Ça passera par des moyens inédits mis sur le lycée professionnel, plus d'1 milliard d'euros par an supplémentaires mis pour le lycée professionnel, pour faire plus de petits groupes, pour accompagner mieux les fragilités scolaires, pour faire aussi plus d'options, accompagner des ouvertures culturelles, accompagner aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi, accompagner aussi les stages et l'insertion professionnelle et notamment le mentorat avec un ensemble de partenaires qui vont nous accompagner pour mieux les préparer et puis organiser la lutte contre le décrochage avec les partenaires École de la Deuxième Chance, EPID, Mission Locale, tout ce réseau de partenaires qui très tôt peuvent venir nous aider à lutter contre le décrochage. C'est aussi travailler sur les stages, la qualité des stages, le réseau d'entreprises pour ceux qui n'en ont pas. Travailler sur cette recherche d'entreprises dans lesquelles ces jeunes iront faire des stages et se faire des expériences professionnelles. Et puis en parallèle de tout cela, c'est travailler sur la découverte des métiers, travailler sur l'orientation choisie, travailler également sur l'attractivité des métiers. Et France 2030 nous permettra d'investir pour mettre en visibilité des filières. Et enfin, parce que le pacte des lycées professionnels est très orienté sur cet objectif, nous n'allons lâcher aucun jeune, ni avant le baccalauréat professionnel ou CAP, ni après le diplôme, car nous devons faire que chacun ait une solution. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgrasse pour le groupe Les Républicains.
Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Garde des Sceaux. Monsieur le Ministre, je fais suite aux annonces du projet de loi d'orientation et de programmation de la justice que vous avez présenté en Conseil des ministres la semaine dernière. L'embauche de 10 000 personnels, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers, est une bonne nouvelle sur le papier qui tend à rassurer et à donner enfin les moyens à notre justice. C'est un bon début, mais cela est encore bien insuffisant quand on sait que pour un magistrat, il faudrait au bas mot 2 ou 3 greffiers pour fluidifier son travail. Je m'en suis rendu compte lors d'une visite au tribunal judiciaire de Troyes, pas plus tard que la semaine dernière, où plusieurs juridictions croulent sous les stocks insurmontables d'affaires à gérer, faute de personnel insuffisant pour traiter tous ces dossiers dans un délai raisonnable. Les Français attendent de vous des réponses et des actes pour désengorger nos tribunaux. Cela provoque un ressenti négatif dans la population, pouvant la conduire à un vote populiste. Vous le savez, Monsieur le Garde des Sceaux, je défends mon tribunal et je plaide pour son bon fonctionnement, comme pour tous les tribunaux de France. Vous le savez aussi, l'ouverture prochaine de la maison d'arrêt de Troyes-Lavaux, ouverture nécessaire pour notre territoire, mais aussi pour désengorger les prisons parisiennes et d'Île-de-France, va augmenter l'activité du tribunal de Troyes. Je vous ai déjà sollicité plusieurs fois afin de pourvoir les postes vacants, voire augmenter les effectifs, notamment des magistrats et des greffiers. Alors, dès aujourd'hui, afin de permettre à nos magistrats du siège de gagner du temps et de l'efficacité, il y a une mesure que vous pourriez mettre en œuvre immédiatement. C'est prendre un décret pour autoriser la signature électronique au civil, comme il existe au pénal, ce qui simplifierait et soulagerait les magistrats dans leur mission de contentieux de soins psychiatriques ou pour le contrôle des mesures d'isolement et de contention. Alors, Monsieur le Garde des Sceaux, quand prendrez-vous ce décret? Je vous remercie.
Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Bazin-Malgras. D'abord, je vous remercie de me poser cette question. Et je voudrais dire, ou plus exactement redire, car vous avez d'ores et déjà dit les choses, que d'abord, il y avait une loi de programmation. Merci de souligner qu'elle va dans le bon sens. Si je puis me permettre, magistrat 1500, greffier 1500, mais également les attachés de justice en nombre pour aider nos juridictions. Il y a ensuite les moyens, évidemment, réglementaires, si j'ose dire. Je veux mettre en place l'amiable en matière civile. Et puis enfin, troisième volet, le numérique. Alors vous proposez le décret qui pourrait être signé tout de suite sur la signature électronique. Je voudrais vous dire que vous allez un tout petit peu vite, parce qu'il faut d'abord que l'on ait un outil pour conserver de façon électronique les décisions rendues. On le met en place, il sera en place dès cet automne, Madame la députée, et si votre juridiction, celle qui vous est si chère, et qui est si chère à Monsieur Barouin, le tribunal judiciaire de Troyes, souhaite expérimenter cet outil, c'est d'accord qu'il me le fasse savoir, et je pense qu'ils ont en vous une interlocutrice de qualité. Qu'on me le fasse remonter, cette juridiction pourra expérimenter cette signature électronique. Vous avez raison, il faut absolument la mettre en place dès cet automne. Pas tout de suite, pardon, vous décevoir, mais dès cet automne, ce sera chose faite.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Deux secondes.
Allez-y. Monsieur le ministre, j'ai bien compris et mon tribunal sera candidat, j'en suis certaine. Merci.
Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Claude Raux pour le groupe écologiste.
Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je me garderai bien de critiquer l'incritiquable réforme du lycée professionnel annoncée à Saintes, déjà un signe en soi. Aussi, je me contenterai de dire que nous avons de la chance d'avoir un président qui promet l'excellence, rien de moins, aux plus défavorisés sur le plan scolaire. Un président qui a changé de méthode après l'absence totale d'écoute et le mépris, la concertation. Mais sans des syndicats un peu ou très oubliés et des professionnels un peu aidés, voire remplacés par une start-up. Et rendez-vous compte de la chance que nous avons. 1 milliard d'euros pour la voie professionnelle, qu'on pourrait presque appeler la voie royale. Et il va payer les élèves d'1,43€ à 2,86€ de l'heure. Mais ce sera toujours bon à prendre pour faire adhérer les familles les plus pauvres à la vision présidentielle. En plus, les élèves auront des mentors, peut-être des retraités bénévoles. Ah non, ils et elles seront au boulot et beaucoup moins disponibles de ce fait. J'ai failli oublier le super pacte proposé aux enseignants, du moins celles et ceux qui resteront au LP, parce que Monsieur le ministre enverra un certain nombre de profs voir ailleurs. Et puis les élèves auront du temps en plus en terminale. Enfin, en moins en réalité, puisqu'on avance l'examen. Mais de l'argent en plus, s'ils arrêtent là, leur scolarité bien peu émancipatrice. Pour finir sur des stages, pendant que les autres profiteront du dernier trimestre. Et pour être au diapason de la réforme, je citerai le président Macron. Nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse que nous devons à ces élèves. Car peut-être que tout cela n'est qu'une opération de com' bien huilée pour se refaire une image sociale après le fiasco des retraites. Tout ça n'est qu'un cadeau de plus fait aux entreprises, n'est qu'un miroir aux alouettes pour les élèves et leurs familles. Donc, Madame la Ministre, je sais que vous allez nous rassurer avec vos éléments de langage, mais je vous demande quand même, dites-moi que cette grande cause nationale n'est pas en fin de compte qu'une instrumentalisation de l'enseignement professionnel que nous récusons de toutes nos forces.
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Claude Raux. N'est-ce pas vos propres éléments de langage il y a quelques semaines, lorsque vous annonciez le fait qu'il n'y avait aucune annonce budgétaire qui accompagnait les évolutions de la carte des formations? Eh bien, c'est tout l'inverse, monsieur le député, puisque c'est plus d'1 milliard d'euros chaque année supplémentaires qui vont être investis dans le lycée professionnel pour accompagner cette préparation et cette acquisition des compétences qui permettront à ces élèves et à ce pays de relever les grands défis de la nation. Nous accompagnerons aussi cette carte des formations par ce plan France 2030 avec plus de 2,5 milliards d'euros consacrés aux plateaux techniques, consacrés aux formations des enseignants, consacrés également à la meilleure attractivité des filières d'avenir. Alors vous le voyez, si vos éléments de langage sont bloqués sur ces sujets, pour notre part, nous avançons. Par ailleurs, dans votre communiqué, vous indiquez aussi, monsieur le député, dans vos éléments de langage, une pseudo-concertation. Je dirais gare aux pseudo-vérités, car nous avons eu de cesse d'organiser ces concertations par une large consultation de l'ensemble des parties prenantes dès la rentrée 2022, constituée de professeurs, d'élèves, de parents d'élèves, de représentants d'établissements et des académies, des partenaires sociaux, des représentants des régions et des associations. C'est plus de 160 personnes qui ont participé à ces groupes de travail durant 3 mois, émis 200 propositions. Ce sont également des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont eu lieu. Et c'est évidemment des rendez-vous réguliers avec les partenaires sociaux. Alors vous le voyez, monsieur le député, cette réforme à la ligne méthode et ambition. Nous le devons au lycéen professionnel. Nous l'amènerons jusqu'au bout pour favoriser de meilleures conditions de travail pour les personnels éducatifs et une meilleure réussite pour les jeunes. Je vous remercie.
Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Henri Alfandari pour le groupe Horizon.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, grâce à l'action du gouvernement et au travail effectué par la majorité présidentielle, nous avons initié ensemble des politiques ambitieuses en matière de transition énergétique et écologique. L'État s'engage financièrement auprès des Français, des entreprises et des collectivités pour être à la hauteur de ses ambitions. Néanmoins, comme plusieurs de mes collègues, j'ai pu constater des difficultés d'application sur le terrain, des décisions prises au niveau national, notamment dues aux instructions des différents services déconcentrés de l'État. Monsieur le ministre, vous avez défendu et porté la création d'un fonds vert pour accompagner nos collectivités dans leurs investissements, notamment ceux concernant les bâtiments publics. Ces investissements sont essentiels à l'heure où nous devons limiter nos émissions et montrer l'exemple, mais aussi limiter les factures énergétiques afin de pouvoir garantir les services publics que les collectivités rendent à nos concitoyens. Je vais citer l'exemple d'une commune qui a un projet de chaufferie biomasse. Ce projet était parfaitement éligible à des fonds DSIL. Des instructions ont été données pour réorienter ce type de projet vers le fonds vert. Or, pour être éligible au fonds vert, il faut réunir au moins 3 critères. Et comme l'isolation du bâtiment concerné avait été bien faite, le projet n'en réunit que 2. Ainsi, il est recalé, alors même qu'il ferait économiser plus de 60% de consommation et donc d'économie. Je pourrais vous parler de problèmes similaires sur les permis de construire, sur les ENR, mais aussi sur les minimi qui limitent le déploiement de projets dont nous avons besoin. Comment, monsieur le ministre, pouvez-vous intervenir pour que ce bel objet qu'est le fonds vert ne soit pas abîmé par des lourdeurs administratives qui nous empêcheront de réaliser nos objectifs ?
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alfandari, ce fonds vert... Aujourd'hui, il est victime de son succès. 10 476, c'est le chiffre à hier matin du nombre de dossiers déposés pour bénéficier de ces crédits. Ça représente une somme de 3,7 milliards d'euros de demandes qui générerait 16 milliards d'euros de travaux. On est au début du processus. Le dépôt des dossiers a commencé le 27 janvier. Et à la minute où je vous parle, nous n'avons que 1527 lauréats. Il n'y a donc que 200 millions d'euros qui ont été attribués. Le reste est en train de s'examiner. Comme n'importe quel dispositif nouveau, il faut évidemment trouver le temps et trouver la bonne mécanique pour que ça fonctionne. Et il faut bien comprendre que, dans un premier temps, le fonds vert, c'est autant à lui seul que la DSIL et la DETR réunis. Donc ça double les enveloppes d'investissement. Il y a des préarbitrages qui parfois ont conduit à flécher vers de la DSIL ou vers du fonds vert, mais à la fin, puisque chaque département connaît la somme qui lui est attribuée, je ne doute pas que dans les prochaines semaines, on fera d'abord véritablement en sorte de consommer l'enveloppe disponible, mais de les flécher sur les projets qui sont efficaces. Et il y en a dans tous les territoires. L'Indre-et-Loire, chez vous, c'est 91. Le Pas-de-Calais, c'est 318. La Martinique, c'est 63. Et je pourrais continuer de cette manière. Le 24 mai, nous aurons la première réunion de retour d'expérience pour regarder, sous le couvert de mon administration, ce que nous pouvons encore simplifier depuis le début, en refusant les appels à projets et les appels à manifestations d'intérêt, et en confiant les crédits à la main des préfets pour que ce soit souple et déconcentré, on a précisément voulu éviter ces lourdeurs. Je vous assure qu'on va dans le détail regarder comment précisément on respecte à la fois la philosophie et les objectifs, mais d'ores et déjà, cet outil de territorialisation de la planification écologique montre bien que quand on accompagne les élus locaux pour le climat, pour la biodiversité, les résultats sont au rendez-vous. Et l'annonce faite par la Première ministre de ce dispositif, de sa pérennisation le 11 avril dernier, va nous permettre, au-delà de l'année 2023, de regarder comment l'édition 2024 pourra nous permettre d'avoir tous les avantages sans les quelques inconvénients que nous avons pour le moment.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Lionel Tivoli pour le Rassemblement national.
Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau. Suite à la crise de la Covid-19 et maintenant l'hyperinflation qui grève sérieusement le pouvoir d'achat des Français, les conditions de vie de nos étudiants se sont largement dégradées. Chaque semaine, ce sont des files d'étudiants qui se forment à l'entrée d'associations caritatives pour obtenir de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, vous prévoyez une nouvelle augmentation de 5% de la contribution vie étudiante et de campus, atteignant désormais la barre des 100 euros. Cette contribution est devenue de fait un impôt étudiant qui pénalise les étudiants et notamment ceux des classes moyennes. Mais pire encore, la CVEC est devenue un outil financier au service de la propagande woke. Ce sont désormais des projets délirants qui sont financés par le biais de la CVEC visant à endoctriner nos étudiants à des idéologies dangereuses servant l'extrême gauche. Or, l'objectif de la CVEC est d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Est-ce que le financement par la CVEC d'un podcast queer sur les questions de genre à l'Université de Lyon ou l'introduction à l'art drag à l'Université de Bordeaux améliore la condition de vie de nos étudiants ? En quoi le financement par la CVEC du projet du mois décolonial à l'Université d'Aix-Marseille améliore le cadre de vie de nos étudiants ou encore des séances de baby-foot non genrées à l'Université d'Aix-Marseille ? Mais alors, Madame la Ministre, avez-vous l'honnêteté et le courage de surseoir à cette augmentation de la CVEC pour ne pas aggraver les mauvaises conditions de vie de nos étudiants et de surtout ne plus vous en servir pour des délires woke ? Je vous remercie.
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lionel Tivoli. Alors d'abord, permettez-moi de vous rappeler la CEVEC, comme vous l'appelez, c'est effectivement la contribution vie étudiante et vie de campus. À la création de la CEVEC, c'est accompagner la suppression de plusieurs cotisations. Cotisations qui étaient à l'époque la Sécurité sociale, le FSDIE, le Fonds de solidarité développement d'initiatives étudiantes ou alors des cotisations sur la santé étudiante. Pour rappel, en comparaison, en 2018, un étudiant hors frais de scolarité payait 238 euros. En 2023, il paiera 100 euros, vous l'avez dit, pour la CEVEC, c'est-à-dire une économie pour chaque étudiant non boursier de 138 euros. Je voudrais rappeler que le législateur l'a indexé sur l'inflation, évitant le gel, ce n'est donc pas dans notre pouvoir, et portant effectivement à 100 euros pour 2023, la CEVEC. Cette CEVEC, elle permet d'améliorer la vie étudiante et de campus et d'améliorer sur plusieurs axes. Je voudrais rappeler le rôle qu'elle a eu pendant la crise sanitaire. Le rôle pour aider les étudiants isolés, pour aider le passage au numérique, pour aider les épiceries solidaires. Elle a eu un rôle important. Au global, elle joue un rôle sur 5 axes. Sur un axe accueil étudiant, sur un axe d'accompagnement social, mais aussi sur des axes d'accompagnement sanitaire, culturel et sportif. Un autre exemple, ça a été l'Université de Caen, qui, en jouant sur la CEVEC de façon pluriannuelle, a permis d'équiper avec des équipements sportifs son campus pour l'accès à tous les étudiants. Cette CEVEC joue un rôle très important. Plus globalement, l'année dernière, c'est 1,7 million d'étudiants qui ont payé la CEVEC, ce qui a permis de récolter 150 millions d'euros. Et je voudrais préciser que ces 150 millions d'euros, 127 ont été reversés aux établissements et 22,5 au CROUS pour permettre des actions financées et choisies par et pour les étudiants. Un dernier point, un rapport pour le Parlement est en préparation et donc vous sera très prochainement présenté de façon complète. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Allez-y, mon cher collègue.
Donc, si je comprends bien, Madame la Ministre, vous rétablissez la double peine, non pas pour les délinquants, mais pour les étudiants. Vous braquez les étudiants non boursiers, c'est un comble. Et puis, en plus, vous les prenez en otage de vos délires wok.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-François Lovisolo, du groupe Renaissance.
Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. La ville de Cavaillon dans le Vaucluse, de 26 000 habitants, a connu un événement dramatique la semaine dernière sur fond de trafic de stupéfiants. Vous y étiez venu en août 2021 pour y créer un groupe de sécurité de proximité. Conjugué aux importants moyens mis en place par la commune, vos engagements ont permis un net recul de la délinquance à Cavaillon en 2022. Comme quoi l'insécurité n'est pas une fatalité, là où il y a une volonté, il y a un chemin. L'État s'est également engagé aux côtés de la ville en faveur d'une rénovation urbaine à hauteur de 117 millions d'euros. Force de l'ordre et rénovation urbaine sont sans doute l'alpha et l'oméga d'une politique de la ville ambitieuse et réussie. Pour autant, le Vaucluse, cinquième département le plus pauvre, reste un territoire fragile, à l'image d'un règlement de compte qui a fait 2 morts à Cavaillon dans la nuit du 1er au 2 mai, illustrant la nécessité d'un renforcement de moyens. Dès le 2 mai au matin, je vous ai contacté, Monsieur le Ministre, pour vous demander une audience à laquelle j'ai naturellement associé Gérard Daudet, maire de Cavaillon. Cette rencontre a eu lieu vendredi matin. Votre réponse est sans précédent. Ce sont 104 policiers supplémentaires pour assurer la sécurité publique dans le Vaucluse, dont 60 CRS affectés de manière pérenne au département. Cela est une réponse forte, Monsieur le Ministre, à une demande que je vous avais faite, mais la situation du Vaucluse l'exigeait. Ce sont aussi plus de 40 policiers sur Avignon, Carpentras et Cavaillon. C'est le fruit d'un travail collaboratif entre Madame la Préfète, les élus locaux, Gérard Daudet, Cécile Huel, Serge Andrieux et votre serviteur. Mais ce n'est pas fini, car demain, nous allons travailler conjointement sur le rural et le périurbain, grâce à la loi LOPMI. Ce qui va nous permettre de compléter le maillage territorial, notamment en Vaucluse. Monsieur le Ministre, c'est le moment de vous dire merci, au nom de l'ensemble des Vauclusiens, à l'exception des élus du Rassemblement National qui n'ont pas su se réjouir de cette bonne nouvelle. Pardon, j'ai perdu mon papier. Car les échecs et les immobilismes les font prospérer, nos réponses les font reculer. Ils vont voir que pour le Vaucluse, cela ne fait que commencer. Je me permets, Monsieur le Ministre, de vous interroger sur les conditions et les délais du déploiement de ces renforts exceptionnels. Merci.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Lovisolo, je voudrais évidemment saluer votre action en tant que député élu dans le Vaucluse. Saluer Monsieur le maire de Cavaillon, mais aussi le maire de Carpentras et la maire d'Avignon pour le travail quotidien qu'ils font auprès des forces de l'ordre, je le sais, pour soutenir l'action de lutte contre la drogue, puisque vous avez raison, le Vaucluse connaît un regain de trafic de drogue depuis de nombreuses années. Mais depuis la première fois en 2022, avec les services du ministre de la Justice, nous faisons reculer ce trafic. 52 gardes à vue, 19 kilos de cannabis saisis, 25% de points de deal en moins. Il y en avait 84 en 2022. Ils ne sont plus, je mets des guillemets évidemment, que 63 de trop, monsieur le député. Et à Cavaillon, après 9 à 10 mois de calme, puisque nous avons mis fin à des réseaux extrêmement graves dans cette belle ville de Cavaillon, le trafic reprend. Et avec le maire de Cavaillon que j'ai reçu à votre demande, je veux ici dire et confirmer les annonces que j'ai pu faire. 43 policiers de plus en septembre prochain à Cavaillon, à Avignon et à Carpentras et une unité de CRS à demeure dans le Vaucluse tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y aura 200 policiers de plus, si je compte évidemment les 92 policiers supplémentaires que nous avons mis en place depuis 2 ans dans le département du Vaucluse. Alors évidemment, c'est des moyens sans précédent. Vous êtes le seul député non Rassemblement National du Vaucluse, monsieur le député. Sur 5 députés, il y a un député qui n'est pas du Rassemblement National. Vous avez, dans la discrétion de votre mandat, apporté des réponses, fait venir des élus qui n'étaient pas de votre circonscription. Cavaillon n'est pas dans votre circonscription. Au ministère de l'Intérieur, et nous avons trouvé ensemble avec les élus des réponses. Moi, je regrette qu'au bout de 2 heures de questions, il ait fallu attendre que vous soyez le seul député à vous réjouir évidemment des efforts de la police nationale, du recul du trafic de drogue, et qu'il n'y a pas eu 4 questions des 4 autres députés qui manifestement se désintéressent de leur département et ne se réjouissent pas, monsieur le député, quand vous obtenez 200 policiers et gendarmes de plus pour votre beau département du Vaucluse. C'est vrai que les problèmes, on essaie de les résoudre, d'autres vivent avec.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Joël Aviragnet pour le groupe socialiste.
Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, voilà. La République française s'est construite et ancrée comme un idéal d'émancipation grâce à l'école. Les fameux hussards noirs, de par leur engagement au service du pays, ont permis à des générations entières d'accéder à l'instruction, cassant ainsi la prison sociale dans laquelle certains étaient enfermés. Une école forte est la garantie pour une nation d'un avenir serein. Or, la situation de l'école est extrêmement inquiétante. L'été dernier, on apprenait que l'État n'arrivait pas à recruter suffisamment de professeurs qualifiés, car le nombre de candidats était en forte baisse. Depuis plusieurs années, les parents d'élèves constatent, impuissants, que les professeurs absents ne sont pas remplacés. Dans ma circonscription, par exemple, dans un collège près de la frontière espagnole, un professeur d'anglais n'a pas été remplacé pendant près d'un an. Un peu plus loin, la même situation a eu lieu avec un professeur de français en lycée alors que ses élèves devaient passer le bac. Selon le principal syndicat d'enseignants du primaire, le nombre de fermetures de classes était mi-mars de 4 944 pour 2 685 ouvertures, soit un solde négatif de 2 259 classes. Nous savons qu'encore une fois, les territoires ruraux vont en payer le plus lourd tribut. Il est inacceptable de voir nos services publics fermés les uns après les autres et la colère qui gronde se nourrit aussi de cet état d'abandon des territoires ruraux par l'État. La baisse de la démographie pour expliquer les fermetures des classes n'est pas une explication acceptable. S'il y a moins d'élèves par classe, alors l'enseignement ne pourra en être que meilleur. Vous avez annoncé une revalorisation des salaires des enseignants dès la rentrée prochaine. Cette annonce est positive car nous avons besoin de renforcer l'attractivité de ce métier. Alors, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour assurer le remplacement des professeurs absents, comme l'a promis le président de la République ? Pourquoi ne pas se saisir de la baisse démographique pour améliorer les conditions d'enseignement à l'école plutôt que de fermer des classes ? Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aviragnier. Le travail de la carte scolaire s'exerce effectivement dans un contexte de baisse démographique que vous avez rappelé. En moins de 10 ans, la France est passée de 830 000 à 738 000 naissances par an, après une baisse démographique de 300 000 élèves sur ces 5 dernières années. C'est 500 000 élèves de moins qui sont attendus d'ici à 2027. Attachée au service public de l'éducation pour tous les territoires, Madame la Première Ministre a annoncé un plan pour l'école dans les territoires ruraux et un changement de méthode sur les fermetures de classes avec une approche nouvelle, une approche sur 3 années en concertation avec les élèves, avec les élus, pardon, afin de trouver des réponses adaptées au territoire. Vous le savez, le ministre a redéployé 400 postes supplémentaires pour éviter des fermetures de classes dans certains territoires ruraux. Pour votre territoire, la fermeture envisagée n'est pas confirmée. Cette décision finale sera prise en juin prochain. S'il n'y a pas de fermeture de classe pour l'école Couret, c'est 17,5 élèves par classe qui seront à la rentrée 2023. S'il y a une fermeture de classe, c'est 23 élèves par classe, avec donc un maximum de 24 élèves. C'est conforme aux engagements portés par le président de la République et de la Première ministre ainsi que du ministre. C'est une vigilance particulière pour la ruralité qui est accordée. Monsieur le député, vous êtes en lien avec les interlocuteurs de l'éducation nationale sur votre territoire et par ailleurs vous savez que 2 nouveaux territoires éducatifs ruraux seront ouverts à la rentrée prochaine sur votre territoire. Alors vous aurez, j'en suis sûre, la même énergie pour le valoriser, comptez sur le nôtre. Le gouvernement prend en compte la problématique des écoles en milieu rural et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir les conditions d'éducation de qualité partout sur le territoire.
Je vous remercie Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.